Bonsoir, plèbe. Parce que j'ai décidé que nos auditeurs étaient la plèbe. On est la plèbe en ce moment. Il y a des endroits dans Paris où la plèbe n'a pas le droit d'aller. C'est réservé aux forts, aux intelligents, aux beaux, à l'élite, aux détourneurs de fric, aux fabricants de fausses factures, aux voleurs de l'argent public. Eux, ils ont le droit de poser leurs grosses fesses grenues et grasses dans des voitures confortables entourées de motards. Et parce que naturellement, si vous voyez les casseurs qui se jetaient sur les organisateurs de la grande nouba du CC, comment ça s'appelle, CCS, FSS,
MFS,
oui, enfin des trucs comme ça. Liban libre. Pourquoi vous me passez ça? C'est pas le sujet, Philippe. Il comprend rien, cet homme-là. Donc bonsoir plèbe. C'est un plébéien qui s'adresse à la plèbe ce soir. Mais on n'a pas le temps de parler de ces voyous et de ces ringards. On va faire une émission très 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 dense. Donc d'abord quelques annonces, ensuite je vais vous demander de l'argent, ensuite François Brignot va venir, il est d'ailleurs déjà là mais pas encore dans le studio, on va parler de son livre, vous avez encore 5 minutes pour aller l'acheter si vous voulez, il s'appelle, mais vous le trouverez pas en librairie, 3940, l'année terrible, on va en parler longuement, ensuite je recevrai Jacques Darès, qui est le patron d'Atlantis, qui est une revue fort intéressante. Ensuite, je recevrai Jean Mallory, qui est l'explorateur Jean Mallory, l'auteur de Dernier Roi de Thulé et de Ultima Thulé. C'est le grand explorateur du monde esquimau, des Inuits. C'est un personnage assez extraordinaire, qui est en même temps l'auteur d'une des plus belles collections de livres qui existent en France. C'est la collection Terre humaine, qui a publié entre 1000 titres... un livre admirable qui est Le Cheval d'Orgueil, un autre livre admirable qui est Le Vinaigre et le Fiel, bon, et puis je sais pas combien de titres, des dizaines de titres, tous aussi beaux et aussi utiles pour la connaissance de notre monde. Ensuite, je recevrai Monsieur Saint-Sauveur qui est déjà venu nous parler de son école, de ses écoles qu'il installe un peu partout en France pour fabriquer une véritable élite intelligente, cultivée et catholique. Et puis ça sera fini. Et puis on entendra Bruno Maigret. Mais je vous ai dit que j'allais vous demander de l'argent. Alors, vous savez, vous vous souvenez certainement qu'il y a quelques années, on avait eu besoin d'un appareil pour dupliquer des cassettes, et j'avais fait un pari un peu fou, j'avais dit, dans la soirée, on doit arriver à récolter les 25 000 francs nécessaires à l'achat de cet appareil. Et on y était arrivé, on a donc acheté cet appareil, qu'on a appelé Médar, puisque cette quête et cette requête avaient été réalisées le jour de la Saint-Médard. Mais ce soir, c'est un petit peu différent ce que je vais faire. J'ai fait un autre pari avec Sœur Lydia. Sœur Lydia, c'est une religieuse qui vit au Liban depuis des années, elle va nous expliquer ça, et qui s'occupe d'enfants libanais. Alors je sais, moi, mon opinion, si vous voulez, c'est que les Libanais, on en parle beaucoup, on en dit à peu près tout et le contraire de tout, on finit par plus rien comprendre, et ça devient un petit peu rasoir. D'autre part, je suis toujours un peu scandalisé de voir qu'on peut demander de l'argent pour les Libanais, alors que Paris est littéralement bourré de milliardaires libanais qui auraient vraiment les moyens de subvenir aux besoins de leurs compatriotes restés au pays. Mais le fait est là, ils ne le font pas, ou certains, ou ils ne le font pas assez, ou ils ne le font pas tous. Toujours est-il que il y a en ce moment une école au Liban qui compte à peu près une petite centaine d'enfants et qui a besoin d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que cette école n'a pas assez d'argent pour acheter du fuel, du carburant pour le chauffage, et que le Liban, qui est un pays merveilleux et très chaud comme chacun sait, connaît quand même un hiver. Et surtout dans la région où est cette école, il fait froid pendant 5 mois, donc il faut chauffer pendant 5 mois. Le coût du chauffage, c'est 3 000 francs par mois minimum. Il faut donc 15 000 francs pour payer le fuel nécessaire au chauffage de cette école qui héberge des enfants libanais orphelins, je crois. Alors j'ai dit à Sœur Lydia, je vous parie qu'avant la fin de l'émission, au moins 150 personnes auront téléphoné pour dire « je vais vous envoyer 100 francs ». 150 multiplié par 100, ça fait 15 000. Philippe, c'est ça? Il sait pas. Il est strictement littéraire, purement littéraire. Si, c'est ça. 150 multiplié par 100. Donc, 150 personnes téléphonent en disant « Oui, j'ai envie d'aider les enfants libanais à pas avoir trop froid cet hiver, parce que je trouve qu'entre les bombes, les musulmans, la famine, ça fait quand même beaucoup, c'est peut-être pas absolument indispensable d'ajouter le froid. Donc, je suis d'accord pour donner 100 francs. Je pense d'ailleurs que moi, personnellement, je vais donner 100 francs pour commencer. Donc déjà, là, je crois que les gens autour de la table sont déjà tous prêts à donner 100 francs. Donc il y a déjà, il manque plus que 146 appels à 100 francs. Donc je vous demande d'appeler le 46 51 00 85 en disant simplement à nos standardistes bénévoles: bonjour, je suis monsieur ou madame Tartempion. Si vous vous appelez Tartemol, vous dites pas vous appelez Tartempion parce que ça n'a aucun intérêt. Et je vais envoyer 100 francs dès demain par chèque, par mandat, en timbre, où? Bah où? Alors on va demander à Sœur Lydia. Où, Sœur Lydia?
Maison Notre-Dame des Dons pour l'enfant heureux.
Voilà. Maison Notre-Dame des Dons pour l'enfant heureux. 17 avenue Deschanel.
Émile Deschanel.
Émile? Vous voulez qu'on l'appelle Émile?
Parce que je ne sais pas s'il y a un autre nom, Deschanel. Émile Deschanel.
Alors, Émile Deschanel, 75-007 Paris. 17 avenue Émile Deschanel, 75-007 Paris. Soyez gentils, ne me faites pas perdre la figure, comme on disait dans le temps, là-bas, parce que je serais très vexé vis-à-vis de Sœur Lydia. Alors, maintenant, je vous laisse enfin la parole. On va voir ce qui va se passer. J'espère que nos amis vont téléphoner. 150 appels à 100 francs, 15 000 francs. On a 3 heures pour rassembler 15 000 francs, ça fait 5 000 francs de l'heure. C'est pratiquement le salaire d'un racketteur socialiste moyen, quoi. Donc, c'est pas plus difficile, en fait, de chauffer la maison des enfants libanais que de financer la campagne électorale de Mitterrand. Alors, simplement, c'est plus utile, à mon avis. Sœur Lydia, qu'est-ce que c'est que cette école?
Voilà. Je m'excuse de vous corriger un peu, parce que ce n'est pas une école, c'est une maison, un orphelinat, mais qu'on n'appelle pas orphelinat. On appelle maison Notre-Dame des Dons pour l'enfant heureux. Donc nos enfants sont au contraire scolarisés et nous payons leur scolarité très très cher. Nous n'avons pas de fonds, nous n'avons rien, nous avons juste une petite garderie qu'on appelle ici crèche pour justement garder nos enfants, les tout-petits que nous avons en quantité, et pour pouvoir aussi accepter, recevoir quelques-uns de l'extérieur. C'est une petite ressource, soi-disant, pour la maison, mais en réalité, nous n'avons pas pu avoir d'enfants cette année à cause de la cherté de vie, de l'inflation, de la livre libanaise, et puis de la situation de tous les gens qui sont là-bas. Alors voilà, c'est une première chose, c'est que nous ne sommes pas justement une école, parce que si c'était une école, elle aurait pu avoir des ressources. Mais nous avons tout pour dépenser et rien pour recevoir.
Alors, donc vous avez quand même...
Nous avons 49, nous avons une 80 enfants qui sont entièrement à notre charge. Ils n'ont pratiquement ni de famille, ni nom de famille. Certains, beaucoup d'entre eux n'ont pas de nom de famille aussi.
Ce sont des orphelins victimes de la guerre qui ont été trouvés.
Ils nous viennent soit par la Croix-Rouge, soit par le, on les trouve à la porte, soit aussi par la gendarmerie, ou bien des fois les hôpitaux.
Qui vous les apportent, en disant on ne sait pas quoi en faire, voilà, il faut les héberger. Alors, vous leur faites quoi? Vous leur donnez une formation, une éducation?
Absolument. Une éducation, une formation, des études. Alors, comme nous n'avons pas d'école, nous n'avons rien. Nous sommes obligés un peu de les distribuer dans toutes les écoles. Et puis, comme c'est des écoles privées, parce que l'école publique n'existe pas, si on peut dire pratiquement, et les écoles privées ne sont pas du tout... ne reçoivent aucune aide du gouvernement, déjà quand il existait. Alors, donc, c'est très cher. Et nous sommes obligés de payer très très cher la scolarité des enfants. Nous avons 49 qui sont scolarisés.
Et ce sont des sœurs qui s'occupent d'eux tout le temps?
Sœur Virginie et moi-même.
Oui. Vous êtes deux sœurs pour 80 enfants?
Pour 80 enfants.
Et vous avez du personnel un peu?
Nous ne pouvons même pas nous procurer une cuisinière. Nous avons essayé de l'amener trois matinées par semaine. Nous n'avons pas pu la payer.
Qui faites la cuisine?
C'est nous avec nos grandes, parce que nous avons un peu de tous les âges, mais nos grandes aussi vont à l'école. Vous voyez, si elles ne vont pas à l'école le matin parce que elles n'ont pas pu obtenir, enfin, atteindre le niveau qu'il faut, maintenant, on les prépare pour les écoles professionnelles que nous n'avons pas. Enfin, nous n'avons pas nous, mais nous les envoyons. Et puis là-bas, l'école professionnelle n'est pas très, très développée. Mais enfin, pour qu'elle ait quelque chose entre leurs mains, c'est leur unique ressource pour l'avenir. Mmh. Et alors, on les envoie dans les écoles un peu partout. Nous sommes obligés donc d'avoir un chauffeur, parce qu'il faut les envoyer en autocar, on est assez loin un peu de la ville. Déjà, un jour sur deux, il nous faut 150 000 livres pour payer le.
Qu'est-ce que
l'essence.
Ça fait, 150 000 livres?
Ben, tout dépend de l'inflation. Vous savez, disons, dans 100 000, je ne sais pas combien ça peut faire. Je n'ai plus aucune idée parce que le franc, ça monte et ça descend, ça dépend de la livre libanaise, mais il est arrivé, il peut être à 100 livres, le franc à 100 livres, comme il peut être à 150, je pense qu'il doit être autour de 100, 120.
Donc c'est de l'ordre de 1000 francs. Bon.
Oui. Et donc un jour oui, un jour non. La scolarité des enfants, c'est 450 000 par enfant par année. La sœur a fait une dette de 12 millions rien que pour les fournitures classiques. Enfin, nous sommes dans tous les états en début d'année. Et puis, maintenant, nous n'avons pas de quoi chauffer les enfants. Et nous sommes à 900 mètres d'altitude dans la plaine de la Beka, entre deux chaînes de montagnes. Il fait très, très froid. C'est un climat très continental. Et puis, jusqu'à présent, la sœur n'a pas pu remplir le réservoir pour pouvoir chauffer les enfants. Bon, heureusement, on n'est pas encore tout à fait en hiver, mais on n'a pas de quoi déjà se permettre de remplir avant le temps le réservoir.
Bien. Alors, merci, sœur Lydia, d'être venue nous expliquer ça. Je rappelle que j'ai pris l'engagement pour les auditeurs de Radio Courtoisie que nous allions tenir, en fait, la promesse de Saint-Louis... protection de la France, en faire le Liban chrétien. Nous allons la tenir, contrairement à tous ceux qui l'ont trahi depuis des années. Nous allons essayer de la tenir. J'ai pris cet engagement dans des toutes petites proportions. Il s'agit, dans les 3 heures de l'émission, d'avoir 150 appels d'auditeurs nous disant « Je donne 100 francs, j'envoie 100 francs dès demain à la maison Notre-Dame des Dons pour l'enfant heureux, 17 avenue Deschanel, 75 007, Paris. » 100 francs ou la moitié, ou 50 francs, mais je voudrais avoir 100, ou plus, d'ailleurs, si vous voulez envoyer 500 francs, vous ne vous ferez pas engueuler, je vous garantis. Je voudrais avoir la certitude ce soir qu'on a réussi, tenu ce pari. Comme ça, cet hiver, quand il fera un petit peu froid dans nos rues parisiennes, on pourra penser que dans la plaine de la Beka, il y a 80 petits gosses, 80 gamins orphelins libanais qui n'ont pas froid parce qu'on a fait l'effort d'allonger un petit billet, enfin d'allonger c'est pas très joli, oui, de glisser un petit billet de 100 francs, ou un petit billet de 200 francs, ou un petit billet de 500 francs, pour leur acheter le fuel. Alors c'est un peu mon crédit vis-à-vis de sœur Lydia qui est en cause. Si vous voulez pas que je sois ridicule, soyez gentil, téléphonez. Je demande aux standardistes bénévoles de me faire savoir régulièrement si notre pari est en passe d'être tenu. Merci, sœur Lydia.
Je vous remercie infiniment. Je remercie les auditeurs par avance pour leur collaboration et puis de la part aussi de tous les enfants. Et qu'ils soient assurés de notre prière et de la prière des innocentes des enfants.
Merci, sœur Lydia. Merci. Alors, je rappelle encore une fois l'adresse, mais je vais vous la rappeler plusieurs fois. Maison Notre-Dame des Dons pour l'enfant heureux, 17 avenue Deschanel, 75 007, Paris. Vous pouvez même dire 17 avenue Émile Deschanel si vous êtes, très attaché au respect des formes. Troisième voie, une annonce. Nous prie d'annoncer la conférence débat qui se tiendra le jeudi 22 novembre, c'est-à-dire demain à 20h15, salle des agriculteurs, 8 rue d'Athènes, 75 009 Paris. Le thème, le droit international au service de qui? Avec Jean-François Lambert, François Stecker et notre ami Jean-Gilles Malirakis, bien entendu. Autre annonce, dimanche 25 novembre, grande salle de la mutualité, conférence « Le Saint-Suaire est authentique, les faussaires démasqués » par le frère Bruno Bonnet-Aymar, le docteur Pierre Mera, le docteur David Boyce, Jean-Michel Forestier et l'abbé Georges de Nantes. Alors je vous rappelle, c'est le 25 novembre, à quelle heure? Eh bien, ça n'est pas indiqué, ce qui est fort dommage. Pardon, à quelle heure? Non, 20h30? Le dimanche? C'est pas l'après-midi? Bon, et eh ben écoutez, il n'y a pas d'heure, alors ça c'est quand même extraordinaire. Ah si, si, pardon, 15h, conférence audiovisuelle, voilà, 15h. 15h, dimanche 25 novembre. Et puis, une autre conférence, au revoir ma sœur, c'est sœur Lydia qui prend congé, et monsieur Calmin qui l'avait accompagné, qui prend congé aussi. Voilà, donc, toujours sur le Saint-Suaire, monsieur Edel vient nous parler très brièvement, on en parlera beaucoup plus longuement plus tard, d'une autre conférence, ou plutôt d'un grand rassemblement qui aura lieu le mercredi 28 novembre 1990 à 20h15 à la Maison de la Chimie et qui est organisé par le CIELT, le Centre International d'Études sur le Linceul de Turin. Alors, quels sont les sujets qui seront évoqués, Monsieur Edel, lors de cette réunion du 28 novembre?
Donc je rappelle bien le 28 novembre à 20h15, très précis.
Oui, pour les amateurs, pardon, pour ceux qui s'intéressent particulièrement à la question du Saint-Suaire, qui est une question, à mon avis, absolument capitale. Il y a deux réunions cette semaine, le 25 novembre à la grande salle de la mutualité par le frère Bruno Bonnet-Aymar, qui est un grand spécialiste de cette question, et qui donc parlera de la fraude de la datation du carbone 14 à 15h, et puis une autre réunion, alors le mercredi 28 novembre, par le CIELP. Voilà, je vous rends la parole.
C'est ça, nous parlerons aussi d'ailleurs du problème du carbone 14, mais enfin d'une manière plus modérée, parce que pour nous c'est pas l'essentiel du problème. Alors, ce que nous allons faire, nous allons lancer une grande campagne de signatures pour demander aux propriétaires du linceul. Vous savez que maintenant, le propriétaire du linceul de Turin, c'est le Vatican, depuis que le roi d'Italie a donné le linceul donc au Vatican. Nous voudrions obtenir du Vatican, pour le centenaire de la photographie qui avait été faite le 28 mai 1898, nous voudrions obtenir donc une ostension solennelle du linceul de Turin. Donc nous lançons une grande campagne pour récolter des signatures, un petit peu comme Radio Courtoisie l'a fait. Nous espérons avoir autant de succès que Radio Courtoisie et contraindre en quelque sorte le Vatican à cette ostension solennelle.
Autant de signatures, parce que autant de succès, pour l'instant le succès il n'est pas garanti en ce qui concerne Radio Courtoisie.
Alors, pourquoi avons-nous choisi cette date? Eh bien, parce que le 28 mai 1898, je me permets de le rappeler à tous les auditeurs qui doivent le savoir, l'Italien Segundo Pia avait donc fait la première photographie du linceul de Turin, du Saint-Suaire, et que à cette occasion, on avait donc constaté que cette image extraordinaire était un négatif photographique, ce qui était déjà la première manifestation scientifique de l'authenticité. C'était la révélation de l'authenticité scientifique du linceul de Turin. Alors, si vous voulez, nous avons procédé par étapes. Nous avons constitué une association qui s'appelle le Centre International, donc le CIELT, qui a organisé un symposium à Paris en 1988.
Qui a eu un certain retentissement.
Voilà, qui a eu un très grand retentissement, nous le pensons, et qui a eu un certain nombre de conséquences. Nous pensons que le départ du cardinal Balestrero de Turin, le fait qu'il ne soit plus custode, gardien du Saint-Suaire, n'est pas étranger à ce symposium.
Et le symposium a donné d'ailleurs naissance à un livre que j'ai eu la faiblesse de considérer comme un des livres les plus importants du siècle, je crois. C'est la science au risque du linceul d'Arnaud Ipinski.
Oui, alors c'est pour préciser, si vous voulez, que c'est un des volumes de l'ensemble des actes du symposium qui vont être publiés et dont le volume suivant va être justement donné le soir de cette réunion. Alors, donc, d'une part, le lancement de cette grande campagne de signature, parce que, si vous voulez, nous avons montré l'authenticité scientifique du linceul de Turin, c'était l'objet du symposium. Toutes les disciplines scientifiques, je vous rappelle, concordent pour manifester cette authenticité, mais entre l'authenticité elle-même et sa manifestation, sa reconnaissance, à la fois par les institutions et les médias, il y a un grand fossé, et justement, c'est ce fossé que nous voudrions combler. Et nous nous donnons comme objectif 1998 pour que cette reconnaissance soit tout à fait définitive, à la fois par les milieux scientifiques, ça c'est déjà fait pour l'essentiel, et puis par les institutions. Alors, qu'est-ce qu'on va vous proposer d'autre? Donc il y a un programme très dense, nous avons des personnalités qui viennent d'Italie, Madame Filiato, qui est présidente de l'Association d'archéologie et d'antiquité classique de Rome, Monseigneur Va, qui va venir d'Italie également, qui est notre délégué auprès du Saint-Siège, qui va exposer la position du Saint-Siège et qui va apporter vraiment quelque chose que je ne peux révéler ce soir, mais de très important.
Ah, ça c'est très important.
Très important.
Il y aura une surprise.
Oui, il y aura une surprise. Oui, tout à fait. Il y aura une surprise. Arnaud Ipinski.
J'aime bien les surprises.
Arnaud Upinski, qui est venu à ce micro et dont vous parliez tout à l'heure, fera, lui, le bilan des acquis scientifiques depuis notre symposium de l'année dernière. Il y en a quand même pas mal. Et surtout, ce renversement de tendance qui a été opéré à l'occasion du symposium, puisque vous savez que la datation de carbone 14 avait donné lieu à un véritable rouleau compresseur médiatique qui consistait à nous dire que c'était terminé, que le Saint-Suaire était un faux, etc. Or, plus personne ne parle de faux aujourd'hui, et ça c'est très important, il n'y a plus de faux.
Même Taïk lui-même a reconnu qu'il avait été...
Taïk lui-même l'a reconnu. C'est très important, bien sûr. Et puis alors, nous allons exposer pour la première fois en France une grande diapositive, grandeur nature du Saint-Suaire, donc 4,50 m sur 1,50 m, avec tout un système d'éclairage, qui sera dans le hall de la Maison de la Chimie, et qui sera donc visible pour la première fois par tous les participants. Donc nous espérons que tout le monde va se mobiliser.
Alors, voilà, se mobiliser le mercredi 28 novembre 90 à 20h15 pour s'informer, pour en savoir plus,
voilà.
Pour apprendre,
et d'ailleurs,
et
on va
ensuite
en reparler
pour obtenir... L'ostension en 1998 pour le centenaire de la découverte, en quelque sorte, la découverte photographique du, voilà, du Saint-Suaire. Donc, une grande campagne de signature pour laquelle nous vous demandons, enfin, le CIELT vous demande à laquelle le CIELT vous demande de participer. Mercredi 28 novembre 1990 à 20h15. Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, 75 007 Paris, métro, chambre des députés, bus, ligne 69. Non, pas chambre des députés, c'est pas
si,
ça que vous voulez dire.
Chambre des députés, mais je crois que ce n'est pas le bon bus.
Ah bon, alors le bus, vous trouverez.
Voilà, c'est juste à côté de la place des Invalides.
Voilà. En fait. Et la participation aux frais est de 30 francs. Alors, ça se passe mercredi 28 novembre, pendant l'émission de Jean-Gilles Malirakis. C'est bien fait pour lui. Voilà. C'est pas pendant mon émission, moi. C'est tout ce que je voulais faire remarquer. Merci, monsieur Edel. Et
merci,
puis, à mercredi prochain, parce qu'on ira vous voir quand même. C'est intéressant.
On
ne serait-ce que
bien.
Pour regarder la diapositive grandeur nature, ce qui est quand même, doit être un très très bel objet. Mon cher Alain Colombe, étant donné que François Brugnaud vient de faire son entrée parmi nous, vous avez très exactement 4 minutes et demie, je pousserai la générosité jusqu'à 5, pour nous expliquer ce qu'est jeune chrétienté, nouveau mouvement de la jeunesse chrétienne. Il n'y en a pas assez.
Non, je pense que, si vous voulez, je vais peut-être exposer rapidement ce qui fait un peu la particularité de Jeune Chrétienté. C'est effectivement un nouveau mouvement sur la place de Paris. Nous sommes fondés en septembre 90, donc c'est très très récent. Jeune Chrétienté a donc été fondée par un groupe de jeunes venant d'autres mouvements divers. Et nous nous adressons à une tranche d'âge de jeunes de 15 à 23 ans. Donc même les lycéens qui ont défilé dans la rue par les casseurs sont invités à nous rejoindre.
Eux, ça serait plutôt jeune islam, d'ailleurs.
Non, c'est bien jeune chrétienté.
Non, mais vous, c'est jeune chrétienté. C'est un autre genre.
Alors, quels sont les buts de Jeune Chrétienté? Eh bien, Jeune Chrétienté est une association de jeunes, donc dirigée par des jeunes, dans un but missionnaire. Ce que nous voulons, c'est faire des chrétiens et de vrais chrétiens. Tout cela dans la fidélité à l'enseignement donc de l'Église et dans l'attachement à la messe traditionnelle. Nous avons un aumônier, c'est Monsieur l'abbé Dubosc de Paris. Alors nos moyens pour arriver à ce but, eh bien, on peut les regrouper autour de deux thèmes importants. Tout d'abord, pour former ces vrais chrétiens, nous pensons que le moyen le plus approprié, eh bien, c'est de leur montrer l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, toutes nos activités vont donc, durant cette année, et au sein de Jeune Chrétienté, se tourner vers l'imitation de notre Seigneur, vers la connaissance de sa vie, et notamment de sa vie publique, pendant ces 3 années. Donc, ce que nous voulons, c'est apprendre à vivre de l'esprit d'évangile, en lisant les évangiles, en faisant un certain nombre d'activités, de réunions, de moments de prière, et puis notamment de camps où là nous pouvons montrer vraiment à ces jeunes que nous ne connaissons pas et qui viennent de tous les milieux ce que c'est qu'une vie chrétienne. Alors nous organisons d'ailleurs un camp de ski en février, du 22 au 3 mars, mais surtout pour incarner cet esprit de l'évangile, nous comptons faire un camp au mois d'août, un grand camp en Terre Sainte qui se déroulera du 1er au 23 août 91, et qui permettra donc à ceux qui viendront avec nous de parcourir l'ensemble des hauts lieux de la Terre Sainte, donc là où notre Seigneur a vécu.
Alors ça, on en reparlera, vous reviendrez nous en parler en détail, parce qu'il faudra donner les conditions d'inscription, les prix et tout ça, c'est intéressant.
Alors le prix, je peux vous le donner tout de suite. Nous comptons faire fixer ce prix à 4700 francs, ce qui est rien du tout.
Pour trois semaines en
fait. Pour trois semaines.
Effectivement, ça paye à peine le prix de l'avion, ça.
Ça paye l'ensemble, en tout cas, de toutes les... De toutes les démarches sur place, des logements, du transport, etc. Donc, mais c'est vrai que c'est un prix minimum. Alors, nous comptons, durant ce camp, effectivement, aller passer une semaine à Jérusalem et passer une semaine à aider une communauté qui sera sur place. Alors, cet esprit de l'Évangile, eh bien, m'amène également à parler de notre second but. Notre second but, c'est de vivre également d'une plus grande charité. Nous ne voulons pas faire une association qui soit composée de gens uniquement très bien formés et très croyants. Cela, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut réellement incarner ce que l'on croit. Hein, si je cite Saint Paul nous dit, « Si je parle le langage des hommes et celui des anges, mais que je n'ai pas la charité, alors je ne suis qu'une cymbale retentissante. » Alors concrètement, comment va s'incarner cette deuxième dimension, eh bien, de la charité? Deux moyens. Tout d'abord, merci beaucoup, les actions caritatives auprès de personnes âgées et de malades. Et puis surtout, ce qui explique un petit peu notre nom, eh bien, c'est que nous voulons apporter un soutien aux communautés chrétiennes qui souffrent en Orient. Alors tout à l'heure, Sœur Lydia est venue parler de sa communauté. Eh bien, moi, je voudrais parler un tout petit peu, mais très rapidement. Il me reste très peu de temps.
30 secondes.
De la communauté des Maronites, des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans ce but caritatif, dans ce but de vivre un peu plus de la charité, eh bien nous sommes jumelés avec une congrégation qui compte 130 religieuses, 10 maisons au Liban, 2 à Jérusalem, dont la supérieure est mère Pauline Farès, et qui est en France à l'heure actuelle, qui viendra parler le mardi 4 décembre à 20h15, à 19h45, pardon, à la Faculté libre d'économie et de droit de Paris, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, et qui viendra donc nous parler de la situation de sa congrégation, et notamment, on a parlé tout à l'heure des problèmes matériels des chrétiens du Liban, mais ce qui est pire à l'heure actuelle, c'est le sentiment d'abandon. Pour eux, les chrétiens sont abandonnés, et je dirais, cet abandon se concrétise d'une manière dramatique par l'abandon, même au sein des instances dirigeantes de la hiérarchie catholique au Liban. Les évêques n'aident plus tellement les sœurs, les communautés religieuses. Donc nous avons un grand devoir en tant que chrétiens, hein, je crois que c'est valable pour tous les chrétiens, eh bien, d'aider ces communautés. C'est donc ce que je vous propose pour les Parisiens de venir le mardi 4 décembre à la Faculté libre d'économie et de droit de Paris, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, à 19h45 pour écouter Mère Pauline Farès. Pour terminer, puisque là je dépasse carrément le temps, je voudrais quand même donner les coordonnées de Jeune Chrétienté.
C'est ce que j'allais vous demander de faire.
Bien voilà, donc Jeune Chrétienté a son siège social au 46 boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement, donc c'est juste en face de la Sorbonne. Et le numéro de téléphone est le 46 33 98 73. Donc 46 33 98 73. Rapidement, donc, principale activité, nous avons un camp en février, du 22 février au 3 mars. Et puis surtout, ce grand camp auquel nous voulons convier le plus de personnes, en Terre Sainte, du 1er au 23 août, pour le prix de 4700 francs.
Merci Alain Colomb. Vous reviendrez nous parler de ce voyage en Terre Sainte, ça m'intéresse beaucoup, ça. Jeune Chrétienté, 46 boulevard Saint-Michel, 75 006. Paris, téléphone 46 33 98 73. Alors, on a déjà un peu plus de 40 appels, plus, il y a 40 appels, c'était il y a 5 minutes, pour Sœur Lydia. Je vous rappelle que j'ai pris le pari d'obtenir la promesse de 150 auditeurs de Radio Courtoisie ce soir, qu'ils enverraient dès demain un chèque de 100 francs à la maison Notre-Dame des Dons pour l'enfant heureux, 17 avenue Émile Deschanel, 75 007 Paris. Il s'agit de payer le fioul nécessaire au chauffage d'une maison d'orphelins qui se trouve dans la plaine de la Beka et qui héberge 80 enfants. Qu'est-ce qu'on, comment on dit 80 enfants.
Enfants.
80 enfants, ils étaient 80 chasseurs. Donc 80 enfants qui sont soignés par deux sœurs, sœur Lydia et une autre sœur. C'est quand même un travail extraordinaire et je crois qu'elle mérite d'être aidée. Donc, je rappelle, Notre-Dame des Dons pour l'Enfant Heureux, 17 avenue Émile Deschanel, 75 007 Paris. Vous téléphonez à Radio Courtoisie au 46 51 00 85 en disant « Je vous promets que demain, j'enverrai un chèque de 100 francs, de 200 ou de 133 francs ou de 398 francs 43 centimes, ce que vous voulez, mais disons plus de 100 francs pour simplifier, ou moins de 100 francs si vous n'avez pas assez, après tout, pour le fuel des enfants, pour chauffer les enfants libanais de la maison de Notre-Dame des Dons pour l'Enfant Heureux. Monsieur Bonal.
Oui, c'est absolument impensable de penser qu'elles ne sont que deux pour s'occuper de ces 80, perdus complètement dans la Beka qui est assiégée par les Syriens et les champs de drogue qui sont protégés par la CIA. Et de penser qu'elles sont aidées par les plus grandes des filles pour nourrir les plus petits.
Ouais,
c'est une situation mais effarante, quoi. Et de penser également au gouvernement libanais de là-bas.
C'est un beau symbole.
Qui laisse ça. Puisqu'on a beaucoup parlé de chrétienté, je donne la prochaine conférence de Jean Faure, le 27 novembre, 69 rue Violet dans le 15e, métro Commerce. C'est sur le Sacré-Cœur et la fin des temps, c'est à partir de 19h30.
Merci. François Brignot, bonsoir.
Bonsoir.
On ne peut pas dire que vous soyez encombrant sur les ondes de Radio Courtoisie. Je crois que c'est la troisième fois que vous y venez en trois ans d'existence de la radio.
C'est vrai.
Et on a bien du plaisir à vous y recevoir parce que vous êtes rare sur les radios et télévisions. Je crois que c'est pas tellement votre tasse de thé, en fait.
Oui, je préfère écrire quand même. Ouais.
Alors, je sais que vous êtes très très sensible à un aspect du génie français, qui est cette extraordinaire capacité qu'ont les Français à se solidariser solidement et efficacement dans les grandes circonstances. Alors je vais vous en donner un bel exemple, parce que là vraiment, ça c'est tout à fait le genre de choses que j'aime. Vous avez entendu que tout à l'heure j'ai reçu M. Edel, qui est venu nous parler de la conférence que va faire le CIELT, la grande conférence sur le Saint-Suaire. L'objectif du CIELT, c'est de démontrer l'authenticité du Saint-Suaire. Cette réunion a lieu mercredi 28 novembre à la Maison de la Chimie. Et j'ai dit avant qu'il y avait une autre réunion qui se tiendrait le dimanche 25 novembre à la salle de la Mutualité et qui était donnée par le frère Bruno Bonnet-Aimard, qui est pratiquement l'homme qui, en France, a fait exploser, en quelque sorte, l'affaire du Saint-Suaire par son travail d'érudition extraordinaire sur cette question. Je me suis bien gardé de dire, ce que je sais pertinemment, que entre certains membres du CIELT et le frère Bruno Bonnet-Aimard, il y a autre chose que de la câlinerie. C'est des gens qui ne sont pas d'accord. Ils sont parfaitement d'accord sur un point, c'est que le Saint-Suaire est authentique. Moyennant quoi, ils passent leur temps à se bouffer le nez sur les détails. Je ne pensais pas que c'était utile de porter ça sur la place publique. Eh bien, figurez-vous qu'on a reçu un coup de téléphone du président de l'association du CIELT, qui a téléphoné pas du tout pour dire merci d'avoir consacré un quart d'heure de votre émission à annoncer notre congrès, mais qui a téléphoné pour dire qu'il était fort mécontent que l'on parle de la conférence organisée par l'abbé de Nantes à la grande salle de la Mutualité. Alors je veux dire, quand j'entends des choses comme ça, les bras m'en tombent des mains. Les bras m'en tombent des mains. Il faut vraiment être, je ne vais pas dire le mot parce qu'il me brûle les lèvres, hein, pour perdre du temps à passer un coup de téléphone comme ça. Je ne sais pas comment vous vous appelez, monsieur le président du CIELT, mais si vous aviez un coup de téléphone à passer, c'était pour dire merci, monsieur de Beketch, merci Radio Courtoisie d'avoir fait la promotion de notre exposition, de notre grand rassemblement, et c'était pas pour m'engueuler parce que j'ai parlé de la concurrence. Ça, c'est des méthodes qui sont dignes de Félix Potin et des établissements Leclerc. Voilà ce que j'ai à dire. Je trouve cette attitude grotesque, scandaleuse et honteuse. Vous avez passé un coup de fil, voilà ma réponse. Bien, non, mais ça dégage un peu, c'est quand même extraordinaire.
Dégageons.
Hein. C'est vraiment à se taper la tête contre les murs et le derrière contre la suspension. François Brignot, alors on va montrer quand même que c'est pas nouveau ce genre d'attitude. Ça fait un certain nombre d'années que ça existe. Alors vous venez de publier un livre qui s'appelle 39-40, l'année terrible, qui naturellement n'est pas disponible en librairie. Il est,
oui, il y aurait peut-être un mot tout de suite à dire sur l'édition en France.
Parlons-en.
Parce que quand on écrit un livre à l'heure actuelle, et que ce livre est un peu à contre-courant quand on s'engage dans des voies qui sont, sinon interdites, du moins difficiles, On a intérêt à l'écrire, on a intérêt à le faire composer par des amis, à le faire tirer par d'autres amis, et à le vendre soi-même, pas encore dans les catacombes, mais ça va venir, en tout cas en coulisses, presque sous le manteau, comme si c'était autrefois des ouvrages pornographiques. Ceux-là, ils sont en vente libre,
voilà,
mais nous, on est obligés, pour arriver à dire ce qu'on a sur le cœur et dans la tête, on est obligé d'être soi-même son éditeur et son libraire. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on faisait un parallèle entre 1939 et 1990, mais en 39 quand même, il y avait des maisons d'édition, il y avait de la grande presse qui soutenait les gens qui étaient dans le côté fermé, si vous voulez. Tandis que ce n'est plus vrai. Tenez, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai publié, il n'y a pas tellement longtemps, un livre aux éditions de la Table Ronde, Mon village à l'heure socialiste. Eh bien, je n'ai pas eu un sou de publicité de la Table Ronde. Le bouquin a été quasi boycotté, et c'est tellement vrai que quand je m'édite moi-même par correspondance, je vends plus de livres que dans une grande maison d'édition comme la Table Ronde. Et là, il y a un scandale qu'il faut quand même dénoncer.
Je crois que sur la Table Ronde, on peut dire une chose. Enfin, moi, en tout cas, je le dis. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus une maison d'inhumation qu'une maison d'édition pour certains titres. Parce que je prends un exemple, c'est quand même curieux, parce que c'est un livre parallèle au vôtre, c'est le livre de Pierre Monnier, À l'ombre des grandes têtes molles. C'est des bouquins qui sortent dans des maisons d'édition amies, avec d'énormes guillemets, et puis on n'en parle jamais. Il n'y a aucun service de presse, il n'y a aucune relation publique, il n'y a aucune publicité, personne ne fait savoir que ce livre existe, et résultat, il s'est vendu moins de grandes têtes molles pendant la période où ce livre était disponible chez l'éditeur, que depuis le jour où Pierre Monnier a racheté le stock à l'éditeur pour en assurer la promotion lui-même. À propos, Pierre Monnier nous écrit « Je regrette de n'être pas avec vous à Radio Courtoisie. J'aurais aimé dire d'un mot à vos auditeurs toute l'estime et l'amitié que je porte à François Brignot. Comme tu le sais, m'écrit-il, j'ai vécu 39-40 et j'admire François Brignot d'avoir su si bien dire tout ce qu'il y avait à dire. Fais-lui en part. » Amitié Pierre Monnier. Voilà.
Merci Pierre.
Ça c'est une. Il est à Nice, notre ami, mais il va revenir bientôt. Et je vous signale qu'il vient de sortir. Enfin, il va sortir
une suite.
La suite des grandes têtes molles. Alors, donc, dans l'impossibilité, non pas juridique, mais à la fois matérielle, technique et en quelque sorte morale ou amorale, je dirais plutôt, de publier votre livre chez un grand éditeur, vous avez fait l'expérience, une fois de plus,
oui, j'en ai
de l'auto-édition.
C'est mon troisième ou quatrième livre. Et autrement, j'ai fait aussi des livres, mais dans des petites éditions amies, enfin DMM ou présent. Mais là, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, il faut bien le dire, que quand on fait des livres, j'ai fait un livre de souvenirs, Mon après-guerre. Il a été très apprécié au Monde. Et le directeur du Monde, M. Boeuf-Méry à l'époque, a dit à un de mes amis, M. Gilbert Comte, « Ah, je ne savais pas que vous étiez un camarade de François Brignot. J'ai appris ça en lisant son livre. Eh bien, dites-lui qu'il a écrit un livre épatant et que je vais acheter 3 ou 4 exemplaires pour mes jeunes journalistes. Dites-le-lui. » Et Comte lui répond, « Vous savez, il serait peut-être plus content d'avoir un mot, même de critique, dans votre journal. » Et M. Boeuf-Méry a répondu par un sourire et un silence, et n'a jamais dit, bien sûr, un mot de l'existence d'un livre qui racontait 25 ans d'apprentissage de la presse.
Ouais. Oui, c'est ça. On est en plein dans le cœur du sujet. Donc, celui-là, en plus encore peut-être que Mon après-guerre, ce livre qui s'appelle 39-40, L'année terrible.
Il est beaucoup moins personnel.
Qui est moins personnel, mais qui est une démonstration beaucoup plus implacable du jeu réel de cette époque, des forces, de l'organisation des forces en présence et des différentes pressions qui se sont manifestées. Il risque d'avoir encore moins de publicité que le précédent, dans cette presse-là. Mais on va lui assurer toute la réclame possible dans notre presse à nous, parce que c'est un livre utile et sain, dans la mesure où c'est un livre de vérité, et c'est surtout un livre, c'est encore plus un livre de contre-désinformation et de contre-bourrage de crâne. Et je crois que vous vous inscrivez par ce livre, il y a longtemps que vous êtes inscrit dans cette tradition, mais dans la tradition d'un Galtier-Boissière, qui étaient des gens qui, tout en n'étant pas de notre bord, ont travaillé...
Vous pouvez dire qu'il était de notre bord, il était du bord, de la vérité et de la liberté d'expression. On n'est pas sûr d'avoir raison sur tout, mais qu'on nous laisse au moins dire, là on apporte des preuves, des témoignages. Mais vous voyez, j'ai écrit ceci. Jadis, sous l'Ancien Régime, les auteurs demandaient à leurs protecteurs de veiller au succès de leurs ouvrages. Je ne place le mien que sous la protection des Français, curieux du passé de la patrie et assez libres d'esprit pour recevoir ma vérité à bout portant. Ce livre n'aura d'autre publicité que celle de bouche à oreille que vous voudrez bien lui faire. Je ne connaîtrai d'autres lecteurs que ceux que vous voudrez bien lui donner. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir que nous travaillons à l'heure actuelle dans les catacombes. Il faut savoir que nous travaillons dans un côté fermé uniquement, aidés par nos journaux, qui sont pas des petits journaux par la qualité, mais des petits journaux par l'audience, dans le silence total des médias, dans l'écrasement par les radios, par le silence. On tue quelqu'un par le silence, surtout quand c'est un écrivain.
Alors, François Brignot, ce livre, est, je pense qu'il faut que tout être doué de raison de plus de 15 ans, et même peut-être de plus de 13 ans, le lise. Parce que c'est un extraordinaire, je parle pour les tout jeunes, j'ai dit 13 ans, effectivement à 13 ans on peut très bien lire ce livre, parce que c'est un extraordinaire contrepoint à la vérité officielle, diffusé dans les écoles par l'intermédiaire des livres écrits par les enseignants marxistes, paramarxistes, crypto-marxistes, pseudo-marxistes et autres. Et puis, la deuxième raison, c'est que ça apporte un éclairage fantastique sur aujourd'hui, parce que quand on lit ce livre, on découvre, d'ailleurs, comme quand on lit, on en parlait l'autre jour, et vous en parlez dans votre livre, comme quand on lit ci-devant d'Anatole de Monzy, comme quand on lit Les Grandes Têtes Molles, on découvre avec stupeur que, contrairement à ce que tout le monde pensait, l'histoire se répète, et là elle se répète à 50 ans d'intervalle, c'est-à-dire qu'il y a un parallélisme absolument saisissant entre ce que vous racontez de la période 39-40 et ce que nous vivons aujourd'hui en 1990 en France et dans le monde. Alors on peut dire par exemple, la première chose qui vient à l'idée, la première comparaison qui vient à l'idée, et c'est pas nous qui l'avons faite, les premiers, c'est Danzig et le Koweït. Alors, est-ce que le Koweït, c'est un nouveau Danzig? On a l'impression qu'il y a beaucoup de ça. Il y a cet aspect
oui, ce qui, de référence historique. Ce qui frappe, c'est que, par exemple, enfin, Danzig, il n'était pas scandaleux qu'Hitler, dans son mouvement de rénovation nationale, prenne Danzig. Ce qui était scandaleux, c'est qu'ils prennent Prague. Or, on a laissé faire Prague, et on a, au contraire, fait la guerre pour Danzig.
Alors, on pourrait dire...
La guerre pour Danzig. Attention, on a dit qu'on allait défendre la Pologne. Mais on ne l'a pas défendue, la Pologne. Elle a été envahie. Elle n'a pas été envahie que par l'Allemagne national-socialiste. Elle a été envahie par la Russie communiste. Mais on a déclaré la guerre à l'Allemagne pour sauver la Pologne, qu'on n'a pas sauvée, mais qu'elle était envahie en même temps par la Russie soviétique, et on n'a pas déclaré la guerre à la Russie soviétique. On n'a même pas rompu les relations diplomatiques. Il y avait toujours un diplomate russe, enfin communiste, à Paris. C'est là où on voit la même mauvaise foi et la même faire de poids et de mesure qu'aujourd'hui. C'est encore un parallèle supplémentaire.
On arrivera très rapidement, je crois, aux racines de cette crapulerie, de ce mensonge formidable. Mais on peut dire, comme vous disiez...
Je ne sais pas si on pourra le dire.
Bah, il faudra bien y arriver quand même. On ne va pas la fermer jusqu'à la fin des temps. Il y a bien un jour où on l'ouvrira quand même. Donc, je disais le parallèle entre Danzig et le Koweït, on peut le pousser un peu plus loin, c'est-à-dire que, comme vous disiez, Hitler, on l'a laissé prendre Prague, comme on a laissé s'embroncher Saddam Hussein, massacrer des dizaines de milliers de Kurdes avec des gaz mortels, ça n'a gêné personne. C'était très très loin des territoires concernés, qui sont curieusement aussi des territoires occupés. Mais le jour où il a pris le Koweït, où ça enquiquinait la British Petroleum, les intérêts croisés dans cette région, les intérêts croisés du pétrole et de l'impérialisme, des divers impérialismes locaux, eh bien à ce moment-là, on a trouvé que vraiment Saddam Hussein allait trop loin. Donc, dans le Koweït, il y a quand même effectivement...
Oui, il y a un parallèle sulfureux.
Il y a un autre parallèle, c'est le caractère, la guerre immobile qu'on a appelée à l'époque, en 40, la drôle de guerre.
La drôle de guerre.
Et ce qui se passe en ce moment dans les sables d'Arabie Saoudite, c'est aussi une drôle de guerre, dans la mesure où les seuls morts, pour l'instant, sont des morts autofabriqués, des gens qui ont des accidents à l'entraînement, et où la seule activité à laquelle ils se livrent, on a vu des dizaines de photos de ça, c'est du style reconstitution de la bataille de l'Alamein par des soldats américains habillés en soldats de l'Union ou en soldats confédérés, suivant les régiments dont il s'agit. On a l'impression qu'ils s'enquiquinent à 100 sous de l'heure. C'est vrai que les BMC sont pas possibles là-bas, pour des raisons à la fois climatiques et religieuses. Donc il y a un côté un peu... Il y a une espèce de parallèle entre la drôle de guerre.
Oui, parce que en France, en 1939, on avait fait une mobilisation fantastique, 3 millions par là, déjà, qui sont restés pour 6 mois immobiles dans des casernements. Il y avait 200 000 soldats sur le front de l'Est, à peu près, sur notre front de l'Est. Mais c'était tout. Et après, il y avait tout ça. Alors, il y avait les paysans qui ne pouvaient pas aller travailler dans leurs champs. C'était une chose extraordinaire, parce que les fonctionnaires touchaient leur mensualité. Mais les ouvriers ou les paysans ne percevaient que les 5 sous par jour auxquels on avait le droit. D'où une espèce de mauvais climat. Et au printemps, lorsqu'il y a eu cette explosion-là du printemps, cette armée était encore moins belliqueuse qu'au mois de septembre. Et je me demande si les soldats français, les Américains, je ne sais pas, mais si les soldats français passent 6 mois dans les sables... 120 chauds du soldat, en plus, hein, ça compte aussi.
Ça fait peut-être le vin froid, là.
Oh ben, l'hiver, il fait froid. Eh bien, qu'est-ce qui va être au mois de février? Vous allez voir, Noël, c'est une grande date pour nous, Noël. Si les soldats sont encore là-bas, qu'on n'a pas tiré un coup de fusil, pourquoi ça? Il y a quelque chose de dément, là.
Alors, François, je voudrais sortir un peu, pas quitter votre livre, mais en venir à une question un peu plus personnelle. Vous l'avez faite, la drôle de guerre. Vous avez été blessé, je crois, même.
Non, j'ai pas été blessé. J'ai eu une petite blessure.
Bien sûr, et vous avez failli en crever, puisque vous avez attrapé à l'occasion de votre hospitalisation une pneumonie.
Oui.
Bon, c'est quand même pas mal.
J'étais blessé à l'entraînement, en plus. Oui. Ah oui, parce que c'était quand même sérieux, ça. Mais j'avais 20 ans, moi, là.
Alors, justement...
Tandis qu'il y avait des hommes qui avaient 35 ans, qui n'étaient pas entraînés du tout, j'étais sportif, etc., c'était autre chose. Mais moi, je suis de la 39, hein, donc j'étais mobilisé au mois d'octobre. Mais à la fois, la guerre, pour un jeune de 20 ans, c'est à la fois catastrophique et puis formidable. C'est l'aventure qui commence. Je peux pas être... Justement, je voudrais dire un mot sur ce livre-là. J'ai commencé à l'écrire d'une façon différente de la façon dont je l'ai conduit après. Parce que j'ai voulu raconter l'aventure d'un garçon de 20 ans en 39. Et puis j'ai été pris plus par l'histoire politique que par la mienne. Et donc on voit bien dans la construction du livre, de temps en temps on revoit le soldat Brignot. Mais il apparaît pas beaucoup. Parce que ce que je voulais dire était bien plus important de raconter l'aventure dans laquelle je m'étais trouvé que mon aventure dans cette aventure.
Alors la question qu'on se pose toujours en lisant le livre, c'est ces indignations, ces stupeurs, ces ahurissements, est-ce que c'est ceux du soldat Brignot, 20 ans de la 39-1, ou est-ce que ce sont ceux de François Brignot, 50 ans de journalisme, 50 ans de fréquentation du marécage politicard, Qui est-ce qui parle? Quand vous regardez, quand vous dites, par exemple, vous citez la phrase de Daladier qui dit, quand il découvre que contrairement à ce qu'on lui avait annoncé pendant des semaines, Hitler n'a pas calé, parce que tous les jours, l'ambassadeur de France en Allemagne lui envoyait des lettres en disant, des messages en disant, soyez ferme, Hitler va caler, et un beau jour, il découvre que non, Hitler n'a pas calé, et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est, mes ministres sont des imbéciles. Et vous commentez, mais quel idiot les avait nommés? Alors, ça, c'est une réflexion de l'époque ou c'est une réflexion d'aujourd'hui?
C'est les deux. C'est le prolongement du jeune homme que j'étais. Je suis né dans j'ai grandi dans un milieu de gauche socialiste. Et j'ai vu la transformation, la grande cassure qui arrive dans la vie politique en France, et que ce milieu socialiste de gauche, qui a été pacifiste de 1918 jusqu'à 1936,
la guerre,
va devenir belliciste. Sauf quelques-uns, de nombreux, qui resteront pacifistes. Et moi, je suis au cœur de cela parce que mon père est un militant. J'ai, à ce moment-là, 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est le Front Populaire, et il y a une grande cassure, et je vois que les gens qui ont entraîné ce pays dans une aventure terrible, en disant il n'y aura plus jamais de guerre avec l'Allemagne, c'est brillant, c'est Blum, etc. Je donne des textes de Blum qui sont ahurissants quand même là-dedans. Eh bien, brusquement, ces mêmes gens-là vont devenir des bouts de feu, et nous retrouvons ici le parallèle, le parallèle, les gens qui ne voulaient pas défendre le pétrole français quand il était français au Sahara, ils sont prêts à mourir pour le pétrole américain au Koweït. Il y a là quelque chose qui était formidable. Toute la vie politique française a été trompée, parce qu'il est certain que en 34, en 35, en 36, on pouvait arrêter Hitler, on pouvait le briser. Et on l'a laissé devenir puissant avant de lancer son pays dans la guerre, sans la faire, jusqu'à l'explosion, enfin du printemps, qui va amener 1,5 million de prisonniers et près de 200 000 morts. On l'oublie toujours ça, près de 200 000 morts.
Ce qui est curieux, parce que François Brignon rappelle dans son livre qu'on a fait quelques vagues mouvements de troupes le 7 septembre, on a avancé de 10 kilomètres. On n'a rien fait.
Le
10 mai, l'offensive allemande commence dans les Ardennes. Le 15, Gamelin, vous le rappelez, dit ben, « il n'y a rien à faire, on a perdu ».
Et hop, jours après, oui.
C'est la débandade générale des troupes. Et on dirait, c'est un peu comme les lemmings, vous savez, ces petits rongeurs qui habitent en Suède. Quand ils sont trop nombreux, ils vont en sacrifice, ils vont en casse-pipe, et ils nagent jusqu'à ce qu'ils se noient. On dirait que les démocrates, à cette époque comme à la nôtre, sont fatigués de vivre, sont fatigués d'être. Le problème, c'est que en même temps qu'eux-mêmes, ils décident d'envoyer au casse-pipe des millions de jeunes gens. Alors, à l'époque, ils envoient la France se faire écrabouiller par l'Allemagne. Ils laissent la Pologne se faire écrabouiller par l'Allemagne, alors que Guderian, vous le rappelez encore, reconnaît que si les Français attaquaient en septembre, ça serait très mauvais pour l'Allemagne. Les Français ne font rien. On attend que les Allemands ramènent les corps de troupes à l'ouest. On attend d'être écrasés et on est tout content de disparaître et après ça de donner le plein pouvoir à Pétain. C'est fascinant de penser qu'on est gouverné par des gens qui aiment aussi peu la vie, qui aiment aussi peu le sentiment de victoire, qui aiment aussi peu respirer, on a l'impression. C'est fracassant. Et alors là, moi, j'aurais vécu à cette époque, mais c'était mais faramineux mais de vivre avec des gens qui vous aiment aussi peu.
Ce qui était écrasant pour des jeunes gens comme moi, venant de cette formation politique là que j'ai dite, c'est-à-dire élevé dans l'idée qu'il n'y aurait plus de guerre, c'est ça qu'il faut penser. Quand vous voyez les gens pacifistes, Monsieur Bernard Lecache, par exemple,
Le cachemire, d'ailleurs.
Comme dit le cache, il a raison, disait Daudet.
Oui, c'est ça, c'est Daudet qui dit ça.
Oui. Eh bien, Monsieur le cache, qui est le père spirituel de Monsieur Bloch, le père de la LICA et de la LICRA, avec qui j'ai toujours quelques petites affaires, il tenait une rubrique à l'Humanité qui s'appelait les gueules de vache. Les gueules de vache étaient les officiers. Et pendant plusieurs années, il a démoli l'armée française comme il l'a pu. Et ce sont ces gens qui, en 36 et 37, sont venus donner des leçons de patriotisme aux autres.
On a eu la même chose dans l'événement du jeudi il y a un mois. Alors, ils décident de nous lancer dans la guerre. Et puis, quelques semaines plus tard, c'est l'armée française, ce sont des gens totalement nuls, etc. Et puis, la semaine d'après, c'est les criminels de guerre en Algérie. Alors, je connais des types de l'événement de juge, je dis, mais enfin, vous êtes des fous, quoi. Qu'est-ce que c'est de dire, on va faire la guerre, en même temps, on casse l'armée et on veut pas la faire. Ah non, mais c'est pas ça, mais on veut une très bonne armée et on veut faire une guerre propre. Qu'est-ce que ça veut dire, une guerre propre? Avec ces gens-là, on le saura jamais. Alors, c'est ça qui est fascinant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est cette volonté de couper la branche sur laquelle ils sont assis. Ils nous envoient dans une guerre parce qu'ils veulent qu'on la perde. C'est presque ça.
Voilà. Moi,
ils
je
veulent
crois
qu'on
que
la perde.
Le sentiment qu'on tire de la lecture de votre livre, comme d'ailleurs de d'autres bouquins sur cette époque.
Mais là, c'est
je
fascinant
parle de témoignage
livre, hein.
De l'époque. Le témoignage de, enfin, ci-devant de Manzi, c'est extraordinaire. Oui. On retrouve exactement la même chose dans votre livre. C'est cette espèce d'impression qu'ils ont voulu, c'est presque méta-historique, parachever le massacre de 14-18. Ils ont voulu définitivement tuer la chair de la France, notamment la liquidation de la classe paysanne qui avait été entreprise en 14-18 et qui est poursuivie d'une façon sauvage, vous parliez tout à l'heure,
ouais,
dès les premiers mois de la guerre en 39. C'est-à-dire que les premiers qu'on amène sur le terrain pour se faire tuer, pour perdre leur temps, c'est les paysans.
14-18,
mais
c'est la
pour
chair,
répondre
c'est
à la
c'est
question, l'indignation de l'homme 50 ans après et l'indignation de ce jeune homme que j'ai pu être et que j'ai été, c'était pas la même forme d'indignation, mais c'était quand même la même révolte. Je suis né vraiment à la politique à ce moment-là, et le maréchal Pétain, ce que le maréchal Pétain m'a, ça m'a frappé parce que j'ai eu l'impression que j'avais été trompé dans toute ma jeunesse, qu'on m'avait raconté des coups, que c'était pas ça la vie, c'était pas ça vrai, et que ce système politique qui s'effondrait, qu'on le voyait s'effondre, et s'effondre dans une sorte de débâcle molle, et où on voyait, comme toujours, les pauvres souffrir plus que les riches, et les responsables s'agglutiner à Vichy, c'est ce que j'essaie de montrer, parce que le maréchal Pétain, qui était l'homme le plus, le grand militaire le plus aimé de la gauche, Jean Zay parlait de lui, le regard du maréchal, etc., Blum le vénérait, le maréchal, il a été mis là pour payer l'addition, pour payer ce que les autres avaient dépensé, et ils sont venus, tous les francs-maçons, ils étaient là à Vichy autour de lui, c'est ce que j'essaye de montrer.
Alors ça, c'est très frappant dans
le
livre.
On le dit fasciste, on dit, mais c'est pas du tout un fasciste, le maréchal.
Ouais, il y a un formidable mensonge maintenant sur le maréchal Pétain. Formidable.
Ça, c'est monstrueux, cette imposture politique et cette fabrication historique sont insupportables 50 ans après.
L'appui inconditionnel total du lobby politico-médiatique,
ouais,
les fabricants de mensonges, là, ils sont tous d'accord. Il n'y a pas un journal en France aujourd'hui, à l'exception de nos journaux, qui oserait dire la vérité sur cette époque, sur ce qui était réellement le maréchal Pétain et quel était son entourage dans les premiers temps de Vichy. Et ça, vous le faites dans votre livre. Alors, c'est complètement ahurissant de voir autour de Pétain des francs-maçons, des israélites, des socialistes, et qui sont à la fois israélites, francs-maçons et socialistes, et qui font le siège du maréchal parce que ils ont bien compris que la situation, ils ont mis la France dans un tel état de déliquescence, de déréliction, que la situation est totalement désespérée, et qu'il faut un homme qui va arriver à la maintenir.
Le premier personnage qui lance le mot collaboration, c'est un ancien ministre du Front Populaire, le bras droit de Léon Blum, et qui sera après, plus tard, le maître à penser de M. Chirac, c'est M. Spinasse, qui était un marxiste en 1936, qu'on appelait Cérébro-Spinasse d'ailleurs. Eh bien, c'est ça, et on trouve ça, je ne le critique pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu, dans ces moments de désastre, une grande générosité de cœur aussi. Il n'y a pas eu que du calcul, il y a eu une sorte de nuit du 4 août où tous ces parlementaires de Spinasse à Valla, par exemple, ont mis dans le creuset de la patrie blessée tout ce qu'ils croyaient, en disant nous avons fait des erreurs ici, on va pas le faire. Il y a eu un mouvement d'espérance dans les ruines assez extraordinaire. On ne peut pas toujours critiquer tout. Non, il y a eu vraiment une adhésion. Et si le maréchal avait fait un référendum, il aurait eu sans doute 85% des gens avec lui.
Je crois pas que la question soit de critiquer. Je crois que ce qu'il faut dire, répéter, hurler si besoin est, c'est que ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce qu'on lit dans toute la presse d'aujourd'hui, dans tous les livres,
c'est truqué.
C'est un mensonge formidable. Le maréchal Pétain n'a pas pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État fasciste. Il a été porté au pouvoir par la chambre du Front Populaire avec l'appui de tous les députés maçons à très peu d'exceptions près. Vous avez relevé la liste de 98
noms.
Non,
je donne les noms
et les loges et les appartenances de 98 francs-maçons qui ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
La première fois que ça arrive en 50 ans qu'on arrive à dire ça. Oh, je ne suis pas plus malin qu'un autre. J'ai pas de renseignements plus forts qu'un autre. Je me prétends pas un historien. C'est simplement un petit peu, d'attention et de travail. On aurait pu le faire depuis longtemps. Mais pensez que dans une histoire de la Troisième République de Monsieur Chastenay, qui est un homme pourtant de qualité, la maçonnerie, ça peine si on en parle. Alors que on voit l'importance qu'elle a eue dans la totalité des gouvernements de la Troisième République, à tel point qu'il n'y a jamais eu un ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Instruction publique à de rares exceptions près, ni un ministre des colonies
qui
n'ont pas été.
Ouais. L'œuvre noire de cette belle école de pensée a été sanctionnée par le fait qu'il y a 500, vous rappelez les chiffres, 569 personnes qui votent pour les pleins pouvoirs, 80 qui votent contre, 17 qui s'abstiennent, soit 666 votants. C'est toujours amusant de voter la fin de la Troisième République avec un aussi beau chiffre.
Oui, mais pour la fin d'une République, c'est très bien.
Non, mais c'est des républicains. Ouais. Hein.
Mais
la chambre du Front Populaire, ouais. C'est ça qu'il faut le dire.
Ouais. Mais il y a une autre chose qui est très impressionnante, c'est... j'avais rencontré Raymond Abellio il y a quelques années, et il était dans l'aile gauche du parti, enfin de la SFIO, dans les années 30. Il appartenait à X-Crise, qui était dirigé par Sauvy, par Coutreau, par des gens qu'on a retrouvés dans la Synarchie au début des années 40, avec le fameux texte de Geoffroy de Charnay, Raoul Husson, qui en a parlé après la guerre. Et ce sont des gens, Sauvy ou Pierre Hury, qu'on retrouve en 46, autour de Gaulle, avec Jean Monnet, pour mener le même pacte technocratique. Ce qui fait qu'on assistait entre le milieu des années 30 et le milieu des années 40 à un lent passage, une lente gestation technocratique. Et vous disiez tout à l'heure que les francs-maçons s'étaient réfugiés à Vichy. Rebattel en parle dans les décombres. Des 40, il arrive à Vichy, il se marre, il s'éclate, parce que c'est resté comme le Jockey Club, il dit, ou les trucs parisiens, de la jeunesse parisienne branchée, elle se retrouve à Vichy à la place. C'est les mêmes gens qui restent en place, mais... on a une espèce de gouvernement souterrain de technocrates qui va achever d'exterminer la France paysanne, la France traditionnelle catholique, et créer peu à peu les conditions de la France moderne telle qu'on va la vivre sous les Trente Glorieuses de 45 à 75. Et c'est à cela qu'a servi le maréchal Pétain, qui a été en quelque sorte le masque, un des masques de la technocratie à cette époque.
Il faut dire qu'il y avait un régime tellement effondré que même M. Mitterrand, quand il écrit à ce moment-là, il parle de quoi ? Du régime effondré, justement. Des hommes nuls. Il l'écrit ça dans une revue à Vichy. Il le signe de
qui
son nom.
Qui s'appelle Renouveau, la revue de l'État France, la revue de l'État français. Ce qui est dans lequel il écrit un autre article qui s'appelle Pèlerinage en Turin.
Il y a une grande révolte du peuple. Je suis persuadé que si le peuple qui a fui les millions de Français sur les routes, ils avaient trouvé à ce moment-là, devant eux, Monsieur Blum, Monsieur Herriot, Monsieur Reynaud, mais ils auraient été pendus. Il y avait une colère formidable. Et on peut, vous savez, ce que ça prend, ça, à des hommes, à des jeunes gens, comme j'étais, ces événements apprennent, c'est le bouleversement possible dans les cœurs et dans les âmes. Et ceux qui avaient été 4 ans avant, ils applaudissaient Blum, ils chantaient « Allons au devant de la vie, allons au devant du matin ». Ils l'auraient pendu. Et moi, j'ai vu le maréchal Pétain venir au mois de mai 44 à Paris, applaudi par tout Paris dans la rue.
En 44 encore, hein.
En mai 44. Et en juillet, en août 44, de Gaulle, avec plus de monde, mais avec la même ferveur populaire. Quand vous voyez ça, vous restez frappé, vous êtes pétrifié. Il y avait un chansonnier de l'époque qui s'appelait Colline qui disait « La France, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas composée de 40 millions d'habitants, mais de 80 millions. Il y a 40 millions de pétinistes et 40 millions de gaullistes. » Mais c'est un peu vrai, il y a eu ça. Il y a eu ça. Et les deux hommes qui, dans notre histoire contemporaine, ont pu souder et rassembler les Français pendant quelques mois, ça passe vite, ça. Ça a été le maréchal Pétain dans la défaite et ça a été le général de Gaulle dans la victoire. Le maréchal Pétain n'a pas pu faire parce qu'il a été roulé, pris dans la grande vague terrible de l'histoire. Mais le général de Gaulle, il a raté de transformer ce sentiment de consensus, enfin national, formidable, qu'il a eu deux fois, une fois en 44, une fois en 58.
Alors, il y a un autre aspect. On parlait tout à l'heure des parallèles, enfin du parallèle entre la situation de 40 et la situation de 90. Il y a d'autres parallèles qu'on pourrait faire. C'est l'ambiance délétère, le mot est trop faible, l'ambiance totalement pourrie, l'ambiance marécageuse, l'ambiance vaseuse, nauséabonde de la vie politique avec les scandales qui pètent partout.
Ah oui.
À l'époque, c'est...
C'est Stavisky, c'est Hanau, c'est l'affaire Prince, c'est le gars qu'on trouve ligoté, un magistrat important qui a été mêlé à l'affaire Stavisky. C'est tout. Mais il y a à ce moment-là une presse qui joue. Stavisky, c'est pas plus terrible qu'à l'heure actuelle, les fausses factures. Mais à l'heure actuelle, on se trouve quand même dans un système où la, comme on dit, au palais, le ministère de la justice est tenu par Nallet et Isaac. Hein? C'est quand même fantastique de penser ça. Voilà, deux milliards, 4 millions. Ont été d'argent noir qui arrive pour l'élection du président de la République. C'est écrasé. Comment voulez-vous faire? Tandis que, en 1934, quand ils volent le crédit municipal de Bayonne, Stavisky, il y a quand même 1,5 million de Français dans la rue. Il y a 20 morts. On est obligé de tirer sans ça. Sans ça, c'est la Chambre des députés qui vole en éclats. Blum est livide. Daladier est livide. C'est un truc formidable. On appelle le maréchal Pétain qui va devenir ministre de la guerre de l'autre gouvernement, de Monsieur Doumergue. Et il ne veut pas être ministre de la guerre, le maréchal. Il demande l'instruction publique, car il sait que c'est ça qui est important. On voit aussi les parallèles à nouveau avec ça.
Alors, il y a ces scandales. Alors, il y a la formidable impuissance de la classe politique aussi. Ça, c'est déjà à l'époque, comme aujourd'hui.
Ce qui est curieux, c'est que là, on met sur le compte de ces crises perpétuelles, ministérielles. Et je crois que de 1918 à 1939, il doit y avoir quelques 42 ou 43 ministères. Il n'y en a plus de 100 de 1870 à 1939. Mais on s'aperçoit à l'heure actuelle, il n'y a plus, ou il y a peu de crises, puisque M. Rocard a encore échappé de peu, mais il a quand même échappé. Il n'y a plus de crise ministérielle. Mais il reste la même impuissance. C'est assez curieux, ça. Et il n'y a pas eu de crise, mais la crise est interne. Il y a une crise interne qui paralyse. Et au fond, ce pouvoir gère, mais ce pouvoir n'agit pas. Ça, c'est assez étonnant.
Oui, j'étais en train d'écrire quelque chose, c'est pour ça que j'ai laissé créer ce blanc. si j'ose dire.
Ce qui vaut mieux que de créer un noir. Hein.
Oui, en l'occurrence, c'est moins bruyant. Ce qui apparaît aussi comme différence, Vous le disiez tout à l'heure, mais je crois qu'on peut y revenir, c'est d'une part la réaction de la presse vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des scandales, d'autre part la réaction des citoyens. Et je pensais à ça à propos de ce qui se passe depuis 3 jours à Paris. Depuis 3 jours, la capitale est totalement paralysée parce que 34 pantins politico-médiatiques sont en train de faire les guignols dans un endroit de Paris. Ça aurait pu se passer n'importe où. Ça aurait pu se passer à Chambord, à Chenonceau, à Versailles, n'importe où. Il y a 10 000 endroits en France où ces gens-là, comme de toute façon ils se retrouvent pour bavasser, pour bouffer, parce que c'est exactement ça, auraient été très heureux de se retrouver. On les a mis au cœur de Paris, on a paralysé la capitale, on a fait perdre des dizaines de milliards à l'économie parisienne, donc à l'économie française, en 3 jours. On a rendu des gens à moitié cinglés en les immobilisant pendant des heures dans des embouteillages. Le coursier du journal, qui se déplace en scooter, a été bloqué en scooter pendant 3 quarts d'heure dans un embouteillage. C'est invraisemblable. Eh bien, il n'y a pas la moindre réaction. Il n'y a pas eu un type pour sortir de sa voiture et claquer le beignet d'un CRS. Il ne s'est rien passé. Alors finalement, on vit dans un monde où, parce qu'ils trouvent que les ascenseurs fonctionnent pas assez bien, des beurs peuvent parfaitement défoncer les vitrines de Paris, défoncer la gueule des flics, sans subir absolument aucune forme de représailles, et des franchouillards peuvent rester emprisonnés dans des embouteillages pendant des heures, sans avoir la moindre réaction. Il paraît que De Gaulle disait que les Français étaient des veaux. Moi, quand je vois cette situation, j'ai l'impression que les Français sont des protozoaires, oui, à peine cilés. Il y a une différence formidable. On a l'impression qu'en 1934, quand même, les gens en avaient un peu plus.
Il y avait moins de tradition démocratique. Parce que, je rappelle ce que dit Tocqueville là-dessus sur la démocratie, c'est qu'elle transforme les gens en espèce de grands troupeaux imbéciles. Et il dit, elle énerve, elle est bête, elle abrutit les individus peu à peu, et ils deviennent incapables de réagir. De la même manière, Debord en parle dans le commentaire sur la société du spectacle, il dit, il n'y a plus de scandale en démocratie. Quand on pense que avec le Watergate, Nixon a pu être viré, et que 15 ans plus tard, avec l'Ehrengate, qui est encore plus gros comme scandale que le Watergate, Reagan ne peut plus être viré, le perfectionnement du système est tel qu'on arrive à faire passer mais n'importe quoi comme une lettre à la poste. Et en France, on a un couronnement actuellement depuis un an. On peut pas rêver de mieux pour renverser un régime. Et il a jamais été si fort. Parce que réellement, maintenant, c'est le gouvernement de l'ordure. Et comme on a réussi à décérébrer totalement les gens, eh ben ça peut durer encore plus longtemps.
Oui, c'est pas sûr qu'il soit fort. Parce que on croyait aussi, nous, en 1939... Que malgré ces crises, la France existait. On vivait quand même malgré tout, malgré le pacifisme galopant, malgré la démission de nombre de gens. On pensait que la France était encore une grande puissance. Et les Anglais et les Allemands et les Russes le pensaient. Nous n'étions pas les seuls, nous, les petits soldats. Et il a fallu un coup de boutoir de Trafalgar, formidable, 5 jours, c'est fini, après ça part, on se bat, les gens n'ont pas été lâches, faut pas croire ça,
tout à fait.
Il y a eu des résistances ici ou là, mais quand on a vu déferler cette puissance allemande, et surtout, ce qui nous frappait le plus, les gens qui lisaient et qui connaissaient un peu les choses, c'était de savoir que Hitler... Il avait pris le pouvoir en 1933, élu par le peuple allemand. Il avait pris dans un pays où il y avait 6 à 7 millions de chômeurs, où il y avait l'homosexualité galopante aussi, où il y avait du cinéma pornographique, où il était un pays qui était pourri. Et en quelques années, en moins de 6 ans, il avait refait de cette puissance qui était à l'abandon, qui était comme un cadavre crevé au milieu de l'Europe, il avait fait la puissance terrifiante qu'elle était, avec une jeunesse. Quand on voyait arriver ces soldats, mais le peuple français, je ne parle pas de nous, on voyait arriver ces soldats, une jeunesse, avec en petits pantalons, les chemises blonds, beaux. C'était extraordinaire. Ça a été un choc psychologique pour la France, la première armée du monde, qui avait battu, qui avait mis 4 ans pour terrasser ces Allemands en 14-18, au prix de sacrifices énormes. Quand on voyait, moi j'ai vécu dans un monde noir toute ma jeunesse, et avec des femmes veuves autour de nous.
Vous savez, François, moi je peux pas m'arrêter dans un village français, où que ce soit, sans aller voir le
Le monument aux morts.
Et je m'impose un devoir, hein, qui est un devoir, je ne sais pas, une espèce de devoir comme ça, de fidélité. Je lis un par un tous les noms. Tous les noms sur les monuments aux morts. C'est un... Je dis aux auditeurs, faites ça. C'est extraordinaire. Là, vous comprenez tout. L'autre jour, je me suis arrêté dans le Bourbonnais, dans un tout petit village. Tout petit, il doit y avoir dans ce village, je sais pas, 400 habitants aujourd'hui, même pas 300 habitants. Il y a 50 maisons et puis des fermes autour, hein, dans la commune. Il y avait 80 noms sur le monument aux morts. Et il y avait au moins, je me souviens pas précisément, mais au moins 6 familles qui donnaient 3 noms.
Ah ouais, ouais.
Alors, Bellhomme Jules, Bellhomme César, Bellhomme Julien, et puis plus loin, on voyait Le Mercier Alfred, Le Mercier Marcel. C'est absolument saisissant de voir ça. On voit que ce pays, en 1418, a été broyé, haché, détruit dans ses racines.
Mais il a tenu le coup, il a gagné quand même.
Il a gagné au prix de... Il en est mort. Vous savez, c'est comme ces vieux serfs qui... Enfin, ces serfs puissants qui se battent, qui gagnent contre l'autre serf, puis qui vont mourir quelques kilomètres plus loin. Et en réalité, la France de 14, elle est morte en 40.
Argou dit qu'elle est morte à Verdun.
Elle est morte à Verdun, mais elle l'a...
Blessée, en tout cas, cruellement.
Mortellement à Verdun.
Et après, la politique qui a commencé en 18 n'a pas été une politique digne de la France qui venait de gagner la guerre. Tout est là. Tout est là. Et c'est pourquoi on nous ment. On nous ment sur 40, parce que 40, c'est le résultat de la politique que la gauche a faite de 1918 à 1939. Et c'est elle qui est responsable du désastre qui a suivi.
Alors, contre ce mensonge, un livre de vérité, L'année terrible de François Brignot. On va dire tout de suite comment on peut se procurer ce livre, parce que vous ne le trouverez pas en librairie, c'est bien clair. Il faut le commander par correspondance. Je voudrais, François, vous poser une dernière question. C'est une question de personnel, professionnel, sur la technique de ce livre. Parce que vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas un historien. Et c'est vrai que vous êtes journaliste, vous avez été grand reporter, vous avez fait des reportages dans le monde entier, en Afrique, dans l'Afrique en guerre, dans l'Afrique déchirée par les combats tribaux, les bagarres ethniques, etc. Vous êtes allé en Israël au moment où ils se battaient. Donc vous avez une grande expérience de journaliste, de grand reporter. Et l'impression qu'on a en lisant ce livre, c'est que c'est le livre d'un grand reporter qui, la maturité venant, il vient pour un grand reporter beaucoup plus tard que pour un employé de bureau, ajoute à sa technique de grand reportage la culture de l'historien. Parce que vous êtes quand même un historien, que vous le vouliez ou non. Tout le travail que vous avez fait avec l'Anti 89, c'est un travail d'historien, et c'est un travail, je vais scandaliser en le disant parce que c'est un mot interdit, mais c'est un travail d'historien révisionniste, c'est-à-dire d'historien de la vérité, qui dit, moi j'accepte pas la vérité qu'on m'impose, je veux le droit de la rectifier, je veux le droit de vérifier. Et c'est ce que vous avez fait, cette vérification de l'histoire à propos de la Révolution avec l'Anti 89. Vous recommencez là avec 39-40. Je dirais que c'est un livre de reporter, de grand reporter, matiné ou tempéré par l'historien. Mais quelle est la dimension la plus importante?
Mais je travaille en faisant un reportage sur le front, enfin du passé, si vous voulez, comme j'ai pu faire dans une affaire, je sais pas, un fait divers quelconque. J'essaye de me faire une petite idée générale avant de partir, et puis j'essaye d'oublier et de découvrir au fur et à mesure. Là, j'ai travaillé sur mes cahiers et sur les journaux et la presse de l'époque. Et puis j'ai essayé aussi d'oublier et de recréer en moi. J'ai essayé de retrouver les chants, les chansons, les odeurs, ce qu'on mangeait, ce qu'on buvait, la manière dont on regardait les filles, l'amitié, et mettre tout cela au service d'une histoire qui est quand même une histoire non conformiste, je dirais même hérétique à l'heure actuelle, puisque je vais essayer d'aller à contre-courant de l'histoire officielle. Mais faire ça dans un mouvement vivant, comme un reportage, c'est ça que je veux faire. Quand on dit historien, je veux dire, c'est quand même des gens qui découvrent des choses. Moi, je découvre peu, j'ai lu. Il y a beaucoup de compilations dans mon livre, j'ai beaucoup lu autour de cela. Et j'ai laissé mûrir en moi pour essayer de le rendre le plus vivant, pour essayer de recréer. Et c'est ce que je voudrais, c'est que les jeunes gens, les jeunes filles, qui lisent encore. Ils arrivent à avoir une petite image de ce que fut 1939 à travers ce livre. Je serais le plus heureux là des hommes.
Je crois que c'est ça qui est très important. C'est de dire que ce livre-là, c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus. C'est un livre qu'il faut faire lire. Il faut le lire pour soi. Si on a bon, moi je suis né en 46. Quand je le lis, je découvre. Évidemment, des choses, beaucoup de choses. Je pense que les gens qui sont nés avant, qui sont nés en 20 ou en 15 ou en 25 ou en 30, eux, ça va ranimer leurs souvenirs, ça va réveiller des souvenirs, ça va ranimer des polémiques même. Ils vont dire, mais moi, j'ai pas vu les choses comme ça. Tiens, c'est marrant,
c'est vrai aussi.
Ça, c'est très intéressant. Mais, à mon avis, ce qui est capital, c'est que des gosses, je dis à partir de 13 ans, je suis certain qu'un enfant de 13 ans peut accéder à ce livre. Bon, s'il est normalement doué, si naturellement il
passe écrit simplement,
ses journées avec un Walkman planté dans les oreilles, c'est un petit peu difficile. Mais enfin, si c'est un enfant moyen, il va découvrir quelque chose de formidable. Et il va simplement, il faut le savoir, il faut le prévenir, il va s'infliger une brûlure terrible. Parce que après avoir lu ce livre,
il sera plus comme avant.
Il sera plus comme avant et il pourra plus avaler tout cru. Le mensonge sur l'histoire.
L'imposture politique.
Alors, au téléphone, des associations puissantes vont s'arranger pour faire fermer Radio Courtoisie à cause des choses qui sont dites actuellement. Ça m'étonne pas, ça fait exactement 3 ans que ces associations puissantes qu'on connaît parfaitement, ça commence
vive par... la liberté.
Vive la liberté. Eh bien, nous les enquiquinons, ces associations puissantes, ça fait trop longtemps qu'on les enquiquine, je vais même dire d'ailleurs qu'on les emmerde, en long, en large, en travers, à 100 sous de l'heure, et pour rien du tout, et que ça nous impressionne pas du tout. Nulle menace ne nous impressionne, nul chantage ne nous fera changer. Cette radio est ce qu'elle est, cette émission est une émission de liberté. Je comprends parfaitement, mesdames les associations puissantes, que vous n'aimiez pas la liberté, mais d'ailleurs on en a eu la preuve abondante, des preuves abondantes depuis des années, mais c'est exactement le même prix. Si vous ne laissez pas parler sur la radio, on écrira dans nos journaux. Quand on pourra plus écrire dans nos journaux, on fera des samizdat, et puis le jour venu, on prendra des fusils, et on vous montrera ce que c'est que un coup de fusil sur une association puissante. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je ne précise pas ce que sont ces associations puissantes, parce que je me mettrais dans un mauvais cas. Non, on ne va pas le faire, franchement.
Non.
Restons discrets. Voilà, je crois que maintenant on peut dire encore.
Oui, il faut donner l'adresse.
Voilà, encore une fois, 3940, L'année terrible, c'est un livre de vérité, de débourrage de crâne. Le dernier été de la paix, le premier hiver de la guerre, l'explosion du printemps, l'espérance sur les ruines, livre de François Brignot, bourré de révélations, on peut le dire, de choses qui ne sont dites nulle part ailleurs. Par exemple, le 10 juillet 40, 98 francs-maçons votèrent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Évidemment, ça, je suppose que les associations puissantes sont pas absolument enchantées qu'on dise ça, mais c'est quand même le même prix, vous voyez. Alors, à propos des associations puissantes, on pourrait citer des noms, non? Peut-être Alman Gaston, qui est de la loge Marat, Albertin Fabien, qui est député des Bouches-du-Rhône, la loge Les Inséparables du Progrès et Groupe d'Action Laïque, c'est beau comme l'antique, ça. Archimbaud Léon, député de la Drôme, la loge Les Étudiants et l'Humanité de la Drôme. Aubou Raoul, député de l'Oise, la loge L'Étoile de l'Espérance, 33e membre du Conseil de l'Ordre du Grand Orient. Ça doit être au moins un chevalier du 33e couteau, ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bachelet Paul, sénateur du Pas-de-Calais. Baron Charles, député des Basses-Alpes, loge la Nouvelle Yerushalayim et la Fraternité Provençale. Ça aussi, c'est beau. Colomb Pierre, loge la Cordialité. Courson Léon, la loge des Démophiles. Les Démophiles, c'est pas confondre avec les homophiles, hein, surtout. Ça n'a rien à voir.
Ni avec les pédophiles.
Ni les pédophiles.
Ils sont pas au pouvoir, ceux-là.
Gardiole Louis, ils ont du souci à faire en ce moment. Gardiole Louis, député des Basses-Alpes, loge la Fraternité Provençale. Enfin, il y en a 98, je veux pas tous vous les citer, mais vous verrez qu'il y a des noms marrants. On retrouve, il y a des choses, on se dit, tiens, ils étaient déjà là. Ah non, c'est papa. voilà, c'est Meillard Léon, député de la Seine-Inférieure. Loge HHH. C'est pas mal quand même, 3H. On ne sait pas ce que c'est.
L'abordage, sans doute.
Oui, probablement. Voilà. Et donc, le dernier, c'est Ville-Dieu-Antoine, député du Puy-de-Dôme, loge les enfants de Gergovie. Alors, ça, les enfants
c'est
de
sublime.
C'est normal qu'il ait donné son suffrage au maréchal Pétain, tout député franc-maçon qu'il était. François Brignot, merci un milliard de fois. Alors, l'adresse. D'abord, si vous n'avez pas le temps de noter l'adresse, ou vous téléphonez à Françoise Varlet demain matin, elle sera ravie. à Minute, ou téléphonez à National Hebdo, puisque on n'en a pas parlé, mais François Brugnaud est éditorialiste à National Hebdo. Vous téléphonez à la radio, peut-être qu'on voudra bien vous donner l'adresse. Alors, publication François Brugnaud, publication FB, 56 bis rue du Louvre, 56 bis rue du Louvre, 75002 Paris, 75002 Paris. Vous envoyez 115 francs plus 15 francs de port, c'est-à-dire 130 francs franco, arriba, et vous recevez par retour le livre dédicacé, j'imagine.
Non,
non, pas dédicacé.
Sauf s'il demande.
Voilà, si vous voulez une dédicace, vous dites, monsieur Brugnaud, signez votre livre pour montrer que c'est bien vous qui l'avez fait.
Enfin, d'en signer 1600.
La crampe de l'écrivain menace. Alors, je rappelle, François Brugnaud, 39-40, l'année terrible. 115 francs plus 15 francs de port.
Et tout de même en librairie, on peut peut-être le trouver.
Alors, on doit le trouver dans
quelques
dans
bonnes librairies, officines. Dans les librairies de.
Voilà,
de
les nôtres habituelles.
À
Chiré, chez Malia, on doit le trouver, ou on le trouvera. Je sais pas pourquoi. Pourquoi on ne le trouvera pas chez Malia? Il veut pas
pour
le
l'instant,
vendre.
Il n'est pas, quoi.
Bah alors,
pas,
on va remédier à ça.
Il sera.
Voilà. Publication François Brugnaud, 56 bis, rue du Louvre, 75002 Paris. Je vous précise une chose, et c'est pas de la publicité, c'est la vérité. Perdez pas trop de temps pour le commenter, parce que je me suis laissé dire que c'est Anne Le Pape qui m'a fait des confidences.
Ça marche
mieux que bien. Et tant mieux, ça prouve qu'il y a quand même quelques milliers de personnes en France qui sont attachées
à
la vérité.
Et que le bouche à oreille, ça marche aussi.
Il n'y a pas de raison.
Merci.
François, merci d'être venu nous
remercie.
Voir. À bientôt, j'espère,
et
pour la suite, parce qu'il y aura une suite certainement.
S'il y a une suite, ça sera 44-45.
Voilà.
Il y aura des choses à dire aussi.
Je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. Merci.
Mais, bon Dieu, on verra.
Merci François Brugnaud. Alors, vous pouvez lire François Brugnaud toutes les semaines dans National Hebdo. Et puis, vous pouvez lire son livre, 39-40, Année terrible. Alors, je rappelle encore une fois l'adresse, parce que à chaque fois, on nous dit rappelez l'adresse. Rappelez le titre du livre. Donc, publication FB, 56 bis, François Brugnaud, 56 bis, rue du Louvre, 75002, Paris. 115 francs plus 15 francs de port. Voilà, et bien pour saluer François, on va peut-être écouter Jean Sablon, non? Puisque c'était.
Jean Sablon.
Hein, c'était joli ce qui chantait Jean Sablon.
Lorsque je rêve en m'endormant, avant que l'aube ne renaisse, au soir d'amour doux et charmant, du joli temps de ma jeunesse, à chaque fois revient briller un paysage familier. Un champ d'étoiles pour clocher, quatre maisons, l'une après l'une, jouant dans l'ombre à chat perché. C'est mon village au clair de lune, au-dessus d'elle tout poudreux.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Beketch du 21 novembre 1990, diffusé dimanche 22 mars 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bien, bonsoir à ceux qui sont venus nous rejoindre et bonne télévision à ceux qui sont partis, parce qu'en général, à cette heure-ci, ça commence à se débander un petit peu, j'ai l'impression. Alors, d'abord, des nouvelles de Sœur Lydia, enfin l'opération Sœur Lydia. Je vous ai dit au début de l'émission que j'avais pris le pari, on ne parie pas avec les bonnes sœurs, mais enfin j'ai fait une exception, d'ailleurs en général on ne parie pas, j'avais pris le pari de rassembler 15 000 francs au cours des 3 heures de cette émission pour payer le fuel, pourquoi, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, le carburant nécessaire au chauffage de la maison de Notre-Dame des Dons pour l'enfant heureux au Liban et qui est représentée à Paris, Notre-Dame des Dons pour l'enfant heureux, 17 avenue Émile de Chanel, 75 007 Paris. Alors, il nous reste une heure et demie pour gagner le pari. Je dois quand même vous dire qu'on n'est plus très loin de la réussite. J'attends de vous que vous téléphoniez en disant, voilà, je vous promets, votre promesse me suffit parce que je sais qu'on est entre gens de bien, je vous promets dès demain, d'envoyer à Notre-Dame des Dons pour l'enfant heureux, 17 avenue Émile Deschanel, 75 007 Paris, un chèque de 100 francs qui permettra de payer le fuel pour ces enfants orphelins du Liban qui vivent dans une maison de la plaine de la Beka. Moi, je connais pas du tout, je n'ai jamais pratiquement franchi la porte d'Orléans. Donc le Liban, pour moi, je sais pas. Il paraît que moi, je croyais que la Beka, c'était un désert accablé de chaleur. Il paraît que c'est glacial en hiver. Alors, c'est même pas la peine de vivre au Liban, c'est pour avoir froid. Mais enfin, voilà. Donc ces enfants, 80 enfants, parce que jusqu'à présent, je ne parlais que de 80 chasseurs, donc il n'y avait pas de problème de liaison. Mais alors, tout à l'heure, j'ai été confronté à un problème de liaison dramatique. Donc 80 enfants qui vivent dans la plaine de la Beka comptent sur nous pour ne pas voir le froid s'ajouter à leurs problèmes cet hiver. On n'est pas loin de réussir le pari, je vous en reparlerai. Je vous demande de ne pas baisser les bras, continuez à appeler pour dire « Je donne 100 francs, j'enverrai 100 francs à Notre-Dame des Dons pour l'Enfant Heureux, 17 avenue Émile Deschanel, 75 007 Paris, dès demain. » Et puis naturellement, soyez gentils demain d'envoyer le chèque, parce que autrement, alors j'aurais pas l'air d'un imbécile, j'aurais également l'air d'un salaud, ce qui est pas du tout arrangeant pour moi.
Ça serait l'échec scolaire.
Une menace sérieuse. À partir de ce soir, Serge, vous avez intérêt à faire attention. Bien, madame, ou monsieur, je ne sais pas, d'ailleurs, je me promets de faire attention. D'accord, il faut séparer la franc-maçonnerie de la Grande Loge de France et proche du Front National et catholique et patriote. Oui, c'est ça. D'accord, eh bien, on va séparer. Alors, je dois dire que je suis très heureux ce soir parce que dans ce studio, il y a quelqu'un qui que j'aurais jamais pensé avoir la chance de rencontrer un jour. Et que je sais que ça l'ennuie, je dis ça, que j'admire depuis 30 ans. Il s'appelle Jean Mallory, il est explorateur, il est savant, il est poète également. Enfin, moi, je considère que c'est un poète. C'est un homme qui nous a fait découvrir, il y a 30 ans, non, c'est ça ? Presque un peu plus de 30 ans, les derniers rois de Thulé, c'est-à-dire les Inuits. Il faudrait, M. Mallory, que vous vous mettiez bien en face du micro. Et je me souviens, quand j'étais jeune homme, que je lisais ses livres avec passion, admiration. Et puis, il vient de publier là un admirable album, qui a un nom aussi beau d'ailleurs que l'album, qui s'appelle Ultima Thulé. Et c'est sa passion, c'est sa vie. Il rentre d'un très très long séjour en Sibérie, je crois.
En Tchoukotka, oui, en Sibérie nord-orientale.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je vous dis, c'est la première fois que je rencontre M. Mallory, et je voyais Nicolas le regarder tout à l'heure, et je pense qu'il se faisait la même réflexion que moi. C'est fascinant de rencontrer quelqu'un qui ressemble à ce qu'il est. Mmh. Voilà. Hein. C'est frappant, non ?
Et la vraie bouille de l'explorateur. Ouais. On se sent complexé.
Oui, tout à fait. On se sent
dans la chaleur moite, dans la moquette, ouais, sous les néons, et on voit quelqu'un qui a vécu dans les froids. Quoi,
on se sent un peu gras et suifeux, pour tout dire. Quoi. Ouais. Voilà.
Et dans le fait rougir, il va avoir chaud.
Bon, on arrête les compliments. On va parler de votre livre et de votre aventure, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et puis, j'ajoute, quand même, il y a un détail qui est si j'ose dire, la cerise sur le gâteau, c'est que vous êtes l'homme de la collection Terre Humaine. Vous êtes l'homme qui a créé cette magnifique collection, vraiment magnifique, probablement une des plus belles collections jamais créées dans le domaine de l'édition de documents, Terre Humaine, qui a à son actif 60 titres. Alors, il y a tout. C'est la vie des hommes. C'est la collection la plus farouchement nationaliste que j'ai jamais rencontré, et en plus la plus ouvertement
anti-raciste, multiculturelle.
Oui, mais dans le bon sens. Je veux dire, il y a une démarche vers vers l'autre avec le respect de ce qu'il est, sans vouloir l'amener à devenir ce qu'on est soi-même. Oui. Je crois que ça, c'est votre grande obsession, c'est d'arriver à...
Il faut que, puisque c'est la première fois que je viens à Radio Courtoisie, je crois que la nécessité des nécessités en France, c'est de découvrir la tolérance. Et j'appartiens à une génération qui a été dominée par des imprécations contre la gauche et de la gauche contre la droite. J'entends encore ces mots de mon milieu, le front popu, le front qui pue, c'est intolérable. Et de l'autre côté, les mêmes intolérances. Et je pense que nous n'arriverons jamais à construire ce pays dans la mesure où nous ne nous rassemblons pas. Et je crois que nous avons toujours une grande difficulté à écouter l'autre. Déjà, puisque j'appartiens au milieu universitaire, nous savons combien il est difficile pour un collègue d'écouter l'autre, surtout s'il est d'une autre discipline. Vous savez, on parle du racisme, il y a le racisme de couleur, mais il y a surtout le racisme qui est peut-être beaucoup plus grave que le racisme intellectuel. Et j'en prendrai un sans aller très loin. Il est de règle qu'un physicien considère comme tout à fait... je dirais inutile, de peu d'importance, celui qui s'occupe des sciences sociales. Et si aujourd'hui on voit les lycéens dans la rue, c'est peut-être qu'on n'a peut-être pas assez réfléchi au sens même que l'on donne à la vie, au destin que peut avoir la vie, que peut avoir un enfant. Et je crois qu'en s'écoutant les uns les autres, et c'est pour cela que j'admire beaucoup votre logos, courtoisie, tenter d'écouter l'autre. Et je souhaite, puisque je suis dans une radio de droite, que la droite arrive à écouter la gauche. Je suis plutôt un homme de gauche, on me colle cette étiquette de gauche.
Je ne promets pas qu'on l'écoutera, mais il faut essayer. Qu'on l'entend.
Il faut essayer. Écouter l'autre. C'est si dramatique. J'arrive d'une mission difficile en Sibérie nord-orientale, dans des terres qui m'ont été interdites pendant 30 ans. Pendant 30 ans, cette Tchoukotka, qui est une terre de malheur, qui est tout à fait au nord de la Kolyma, où vous savez, c'était les goulags les plus effrayants. Bon, et je crains que l'Union soviétique ne soit affrontée à ce problème dramatique, c'est-à-dire l'incapacité d'écouter le voisin, parce qu'il y a peut-être eu trop de douleur, puis peut-être parce que le Russe a le sens de la souffrance, il aime inventer la souffrance.
Oui, c'est un joli violoniste de la souffrance.
Ah oui, je puis vous dire que le débarquement que nous avons fait, nous avions des moyens importants, nous étions 15, il y avait 3 Français, un de Médecins Sans Frontières, et puis un physicien nucléaire, parce qu'il y avait des accusations sur la radioactivité dans cette région, des médecins, des économistes, des sociologues, et nous avions à débarquer sur une plage en mer des Tchouchis. Bon, c'était un bateau hydrographique, c'était semble-t-il assez simple, on met les barques à l'eau, puis on débarque. Pas du tout. C'est à la Russe. Alors, il y avait des vagues, il y avait un changement de niveau, et puis bon, sur une barge, nous avons dû tous sauter au péril, je dirais, de notre vie, risquant de se casser même une jambe, et c'est ainsi que les choses se passent. Bon, je dois dire qu'il y a rapidement une fraternité, mais comment on pourrait faire plus simple? Enfin, revenons au sujet. Nous sommes rencontrés. Oui, mais c'est un pays où, vous savez, maintenant, quand on va à Moscou, il vaut mieux emporter son fromage.
Son manger.
Pour 8 jours. Alors, mais nous sommes rencontrés sous le signe d'un très très beau livre, un livre de passion chrétienne, et le vinaigre et le fiel. Ouais. De Marguerite Garrigue. C'est un livre d'une extraordinaire intensité qui nous fait comprendre cette foi qui a construit les cathédrales, qui n'a peut-être pas été très bien reçue par l'Église actuelle, je le dis comme je le sais, parce que être trop pieux paraît être, du passé, Et ce qui fait que ce livre, qui est un livre magnifique et que vous avez aimé, je crois que vous êtes d'origine hongroise, c'est un livre superbe, c'est un livre d'une femme extraordinairement pauvre, qui était la plus pauvre du village, et qui était, parce que religieuse, tout à fait hostile au régime communiste. Et lorsque les troupes russes soviétiques sont arrivées, puis à la suite le parti, bien elle est allée demander naturellement et très normalement, puisqu'elle était la plus pauvre et la prolétaire, disons une part. On lui a fait remarquer que puisqu'elle était du côté des curés, elle n'aurait rien. Bon, nous sommes arrivés à faire passer ce message dans le livre, et le livre vraiment est un livre très important, et
je crois que c'est un des plus beaux livres qui m'a été donné de lire. Ça s'appelle Le vinaigre et le fiel de Margit Gary. C'est le journal d'une paysanne hongroise de 1920 à nos jours, et c'est quelque chose d'absolument prodigieux. C'est prodigieux, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'abord de lire le journal, ça pourrait être aussi bien le journal d'une paysanne berrichonne, ou le berry c'est peut-être un petit peu trop gras pour ça, d'une paysanne de la... Je sais pas, il faudrait trouver
le
plateau des mille vaches, voilà. Mais en plus, c'est écrit. Alors cette femme écrit,
une conteuse,
c'est une conteuse admirable, et elle ne cache rien. Il n'y a aucune volonté de tromper, de travestir, de dissimuler, d'économiser. Elle dit tout ce qu'elle a à dire.
L'échelle de Jacob, elle la voit.
C'est extraordinaire.
Puisque c'est dit, eh bien elle la voit. L'ange Gabriel.
La théologie
elle lui parle dans ses prières.
Ses conversations avec les anges et sa conception du ciel, c'est quelque chose d'admirable. J'ai jamais rien lu d'aussi beau sur ce sujet. Ça, c'est un livre à lire. C'est un des livres que vous avez édité dans la collection Antérumaine. Il y en a eu bien d'autres.
Que j'ai découvert, j'ai rencontré Margit Gary, parce que beaucoup de ses livres, j'ai eu l'honneur de les susciter. J'ai rencontré Margit Gary à Mezokovedge. Il se trouve que j'étais accompagné d'Edith Feld. Je regrette de vous dire qu'elle vient de mourir.
C'était
l'ethnologue qui a recueilli cette voix. C'est vrai, c'est probablement le plus grand livre d'une paysanne hongroise. C'est nous Français qui l'avons suscité. Et ce livre a demandé 12 années de coopération.
Travail.
12 années de travail. Je pourrais évoquer également le Orsin, le curé Alexandre, qui est mon voisin du Pays de Caux, qui est un livre également
qui décoiffe
magnifique.
Pas mal.
Oui, c'était un grand conteur, mais qui avait un talent de faire rire les Cauchois. C'est, comme on dit, c'est taiseux. Et il arrivait à les faire rire d'eux-mêmes.
Ce qui est plus dur encore.
Hein, oui, et c'est un curé qui a vécu dans une immense solitude. C'est pas l'inspiration de Bernanos, mais c'est un homme dans son quotidien. Je crois que cette collection... Vous l'avez dit, si elle a un mérite, c'est de nous faire retrouver ce grand courant balzacien de la physiologie du social, ou flaubertien, mais non pas avec la fiction, mais dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai cette grande chance d'avoir, en effet, rencontré des hommes aussi exceptionnels que Lévi-Strauss, mais qu'une Margit Gary, qu'un Jean Rucher, des gens très très modestes. D'un père Jacques Azélias, dont le quêteur de mémoire est à l'origine, avec le cheval d'orgueil, d'un renouveau des régions. Et je crois que si la France retrouvait sa vitalité régionale, bien peut-être que ce jacobinisme qui est très malheureux dans notre pays et qui vise à, avec Paris, de dominer la diversité... faciliterait une meilleure entente. Je suis là pour vous écouter.
Vous nous avez demandé, en commençant, d'écouter la gauche. Pour une fois qu'on a un homme de gauche qu'on a plaisir à écouter.
Vous savez, je l'ai dit dans mon livre, vous savez,
pour aller chez Fridon,
on me voit comme un homme de droite et la droite, on me voit comme un homme de gauche.
C'est le propre des hommes libres.
Il faut véritablement mettre tout ceci à côté quand on voit quelles sont les grandes forces qui dominent le monde, ces grandes forces financières, ces grandes forces politiques. Nous ne sommes pas vraiment des unités qui comptent. Pour ces politiciens, c'est aisé, en effet, de pousser les malheureux à droite, à gauche. Les temps ont changé. C'est plus grave. Et vous me demandez de parler avec mon cœur, bien sûr, les problèmes des minorités, puisque toute ma vie, je me suis mis aux côtés de ces minorités esquimaux, de ces minorités arctiques. Je reviens de la Tchoukotka parce que c'est intolérable que ces populations n'aient pas l'autonomie qui leur a été promise. Elle est inscrite dans la loi, elle est inscrite dans la Constitution de l'article 35. Mais la vie est ainsi faite que les constitutions sont toujours tournées. Si je prends la Bretagne, nous espérons toujours véritablement un grand enseignement en langue celtique avant qu'il n'y ait plus, disons, plus rien. Mais je crois que la grande menace qui doit tous nous réunir, c'est celle qui touche la Terre, c'est-à-dire le trou d'ozone, le réchauffement, l'effet de serre, et dans une certaine mesure, les peuples arctiques sont les, pensez-moi ce mot, les vers de notre Terre, ce sont les gardiens de notre écologie. Il faut bien comprendre que si la Terre, ce qui semble être le cas, vous savez, je suis géomorphologue de métier, j'ai travaillé beaucoup dans le nord du Groenland, avec mes traîneaux à chiens, faisant des mesures, observant les paléoclimats, oui, nous rentrons dans une ère de réchauffement. Ceci veut dire que le Groenland, qui est un des plus grands glaciers, le plus grand glacier de l'hémisphère nord, est appelé à brusquement fondre, que les mers sont appelées à se relever, que ces grands événements telluriques qu'on a connus dans l'histoire géologique s'accompagneront de crises géophysiques, vous savez, la tectonique des plaques, ceci ne se passera pas tout seul, il y aura donc des tremblements de terre, des... Bon, mais est-ce que l'on se rend compte de ces phénomènes alors que les gouvernements pensent, en se réunissant à Genève, se réunissant à New York, réfléchir, discuter, mais ils ne discutent de rien, ils n'en ont plus le pouvoir. Et quand je suis en taxi, que j'essaie de rejoindre un rendez-vous, je comprends bien que nous n'avons pas la possibilité de régenter cette terre, puisque le gouvernement en France n'arrive même pas à régenter la circulation place de la Concorde. Donc nous sommes devant des gouvernements qui sont dépassés, et la seule force, c'est l'opinion.
Moi, je bois du petit lait à vous écouter, vous savez.
Mais
je suis pas le seul, parce que vous avez à côté de vous Monsieur Jacques Darès. Alors, je vais mettre votre tolérance à l'épreuve, si j'ose dire.
S'il vous plaît.
Jacques Darès est le je suis pas président, fondateur, directeur.
Pas fondateur, non.
Ah non, pas fondateur.
C'est le cours.
Non, président de l'association Atlantique.
Président de l'association
Atlantique. Et rédacteur en chef de la revue du même nom. Non, alors, le fondateur, il y a 64 ans. J'avais un an lorsqu'Atlantique a été fondé.
Alors, il y a avec vous, Jean Mallory, des points de rencontre, il y a peut-être aussi des points de distorsion, parce que la revue Atlantis est une revue d'archéologie scientifique traditionnelle, de symbolisme, qui s'occupe d'histoire comparée des civilisations et des religions. Alors, l'archéologie, ça vous interpelle, comme on dit, l'histoire comparée, naturellement.
Bien sûr.
Mais je me demande si votre formation, votre très très forte formation, ne vous vexez pas, Monsieur Darès, votre très forte formation scientifique ne risque pas de vous rendre un peu sceptique quant à l'aspect très fortement symbolique du travail d'Atlantis, ou est-ce qu'au contraire, comme semble le penser Nicolas Bonnal, qui est toujours prêt à faire des rapprochements, il y a possibilité de rencontre.
Vous savez, je précise pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, je suis géomorphologue de formation. Qu'est-ce que c'est qu'un géomorphologue ? C'est un homme qui essaye de comprendre dans la longue histoire de la nature les raisons des formes, de la morphologie, morphos, la forme, logos, le discours. Pourquoi il y a des plaines, pourquoi il y a des montagnes, bref, c'est le terme ultime de notre histoire. Et pendant 15 ans, je me suis intéressé à un problème très complexe, qui est l'équilibre à l'intérieur d'une roche, qu'on appelle la géocryologie à l'intérieur d'une roche. Pourquoi une roche a une certaine dimension, une certaine forme, dans les basses températures, dans les hautes températures. Bref, je me suis attaché à l'expression ultime de cet éclatement des roches, au pied des grandes falaises, des éboulis. Bon, je suis... disons un éboulologue, si vous me passez cette expression. Et c'est en longeant ces grandes falaises précambriennes, c'est-à-dire aux origines même de la genèse de la Terre, avec des traîneaux à chiens, et comme Dieu merci, le CNRS dans sa comptabilité savante donnait des crédits extrêmement réduits, j'avais 4 mois de crédit pour 14 mois de séjour dans un pays complètement solitaire, nous chassions avec les autochtones. Et ainsi, j'ai été aussi de l'intérieur que possible dans une société autochtone et dans des dangers très grands. et ayant compris ces écosystèmes à l'intérieur de la pierre, j'avais un œil, avec un œil de naturaliste, la faculté ou la possibilité de déceler, de décrypter l'organisation sociale de ces hommes, qui est extrêmement étrange. C'est un communalisme ou un communisme primitif, également lié, parce que ce sont des chasseurs, à un individualisme, c'est-à-dire un anarchisme, ce sont des anarchistes nés, et cette combinaison complexe, c'est ce que j'appelle l'anarcho-communalisme. Mais ce qui est plus subtil, et c'est là où je vous rejoins, c'est que sensoriellement, ils sont là depuis, par exemple, j'étais en Tchoukotka, c'est tout près de, enfin, c'est sur le bord du détroit de Béring, c'est le cap des Genèves, je suis face à un des plus grands détroits de la Terre qui fait communiquer l'océan glacial et l'océan Pacifique. Tous les peuples qui ont migré en Amérique, du Nord, du Centre et du Sud, jusqu'au Cap Horn, sont passés par ce détroit. C'est-à-dire pendant 40 000 ans au moins. Par cette petite, ce Tchoukotka qui est grande comme la France, mais enfin, cette toundra. Mais ces hommes, sensoriellement, et c'est là que nous allons nous retrouver, et je suis en train d'écrire un livre, un essai de la pierre à l'homme, sensoriellement, c'est tout le sens de mes séminaires aux études, se sont inspirés de cet écosystème des plants. Par exemple, dans la toundra, une espèce infanérogame ne peut pas vivre seule. Et moins 70 degrés, il lui faut de la compagnie. Une autre espèce. Mais c'est peut-être le triangle, il en faut une troisième. Il y a donc un dialogue secret de langue que nous ne connaissons pas. Et les pierres ont également toute une organisation. Il y a là, dans une petite pierre de la dimension de mon poing, une agitation extrême parce qu'il y a des micro-canalicules où les densités permettent, ils ont des fractures, d'autres au contraire, c'est une grande paix. Donc il y a un ordre des choses. Et la complexité que nous avons à résoudre, nous, hommes du deuxième millénaire, c'est de saisir comment ces chasseurs, ces hyperboréens, ces hommes de la préhistoire ont pu lire. Alors ils n'ont pas lu avec la dialectique, et c'est là tout le malheur précisément de notre rencontre avec les peuples de la tradition, ils l'ont lu avec leurs sens, leurs cinq sens qui sont très vifs, et ils l'ont transposé dans leur contrat social et ont construit cette société extraordinairement compliquée, cette pensée sauvage au niveau de sociologique, qui m'a intéressé et qui a fait l'objet de mes études d'anthropogéographie. Alors, Serge de Beckett dit que peut-être nous ne pourrions pas nous rencontrer. Bien, figurez-vous.
Nous avons certainement pas mal de points communs.
Mais oui, si vous m'aviez accompagné, vous auriez été devant le Delphe des Inuits. Le Delphe des Inuits n'a été découvert que très tardivement par mes collègues archéologues soviétiques. Et ceci veut dire que, véritablement, il reste beaucoup à faire en 1976. C'est le plus grand lieu sacré de tout l'Arctique. C'est une île secrète, sacrée, Itigrane, bon, qui est tout près, vous regarderez une carte, de Providenia, qui est un port. Bon, nous sommes toujours sur la côte d'Atukotka. C'est une île non habitée, et vous avez sur 30 km des défenses de baleines hautes de 4 mètres, des mâchoires énormes, qui sont disposées les unes à côté des autres selon un ordre, je dirais, sacré, orienté, je me suis placé du haut de la montagne jusqu'en observant bien les directions, de l'est à l'ouest, et c'est Karnak, c'est là du XIIIe siècle. Or, de l'autre côté du détroit, dans une île qui s'appelle Rakamcheren, dans cette île qui, curieusement, porte des noms de montagnes français, donné par un explorateur russe qui avait, disons, une sympathie pour Alexandre Dumas. Il y avait des monts, il y en a quatre, alors il y a un mont Athos, un mont Aramis, un mont d'Artagnan et un mont Porthos, qui était face à ma tante. Eh bien, je suis là dans un des hauts lieux sacrés et qui nous montre que ces sociétés arctiques n'ont de sens que dans la mesure où leur vision est verticale.
Bien sûr.
La vie n'a de sens que religieuse. Le plus grand erreur du gouvernement soviétique a été d'être athée. On peut discuter du capitalisme, du socialisme, du plan, du non-plan, du libéralisme, tout ceci prête à discussion. Mais vouloir imposer à des sociétés une conviction dans un domaine où c'est, disons, le mystère de l'infini, c'est véritablement absurde. Ce qui fait que dans cette société, par exemple à Ouélène, où j'ai été, ce petit village de l'extrême nord-est de l'Asie, ben, les chamans ont été pourchassés, et ces hommes sont profondément bouleversés dans leur vie, car ils ne sont pas nés pour la production, pour du soft cause de l'élevage de renards, la brigade de chasse à la baleine. Non, ils sont mariés avec la baleine, parce qu'il y a une vision cosmique.
Exactement.
Et j'ai fait des tests très... Je crois que c'est les premiers tests en Sibérie orientale. Le Rorschach, vous savez, un test sur l'imaginaire des Inuits, et d'autres tests. Je retrouvais une puissance d'imaginaire qui les reconduisait à voir ce qu'on appelle les Kelek, les esprits. Et ce n'est pas du tout ce que... peut-être certains religieux, et en tout cas des communistes, diraient des superstitions. Non, c'est une religion, et le chamanisme a une dimension du sacré
tout
immense.
Fait. Bien sûr,
Jean-Paul II a réuni à Assise les chrétiens, enfin rassemblés, orthodoxes, protestants, catholiques, les musulmans, les bouddhistes, et les animistes.
Oui.
Enfin, l'Église oui. devient écuménique. Eh bien, dans ce haut lieu sacré de l'île que je vous ai évoqué, devant cette allée de la baleine, qui reste très riche de mystères et qui, à mon sens, est l'inspiration chinoise, car vous savez que les peuples arctiques viennent probablement du nord de la Chine, avec cette vision du Fan Shen et du Fan Shui, c'est-à-dire d'une topologie du monde. Et vous savez que encore aujourd'hui, on ne construit pas une banque, on n'a pas une réunion sans savoir le sens par rapport à des grandes orientations. Alors je venais avec moi.
Mais je ne demande pas mieux. Car
ce ne sera plus en Atlantis, ce sera Atlantis Borealis.
Mais justement, vous rejoignez, je suis à 100% d'accord avec vous, parce que d'abord vous soulignez avec juste raison cette notion du sacré absolument essentielle dans toutes les civilisations pré-chrétiennes, et plus l'on remonte, plus on découvre, et c'est pourquoi vos propres découvertes apportent de l'eau à notre moulin. Nous avons à plusieurs reprises d'ailleurs dans notre revue évoqué quelques affaires de ce genre, ce qui manque en France. C'est de pouvoir avoir la documentation nécessaire dans tous ces domaines-là. Parce que c'est là où on voit les choses qui se rejoignent. Vous évoquiez tout à l'heure, à propos de tout à fait autre chose, la menace qui de la fonte du Groenland et autres.
Elle est très réelle.
Bien, je vais vous dire, je prépare actuellement, avec un de nos collaborateurs qui vient de prendre sa retraite, il était directeur de recherche à la Thomson, nous préparons un ouvrage sur le thème de l'Atlantide que nous comptons intituler « Mémoire d'humanité ». Et justement, ce que vous venez de dire à ce propos confirme parfaitement ce que lui-même veut dire. Or, là, il s'agit de domaines scientifiques que vous avez constatés, qui viennent confirmer d'autres domaines du même genre. Et nous allons publier cela avec le premier livre du fondateur d'Atlantis, qui lui date de 1926, qui avait vu le problème sur un plan traditionnel et religieux et sacré, et on s'aperçoit qu'effectivement les deux domaines, scientifiques d'une part et traditionnels de l'autre, devraient se rejoindre parfaitement. Et je crois que vous êtes un exemple vivant, justement, de ce que vous pouvez apporter à cela. Et je regrette personnellement que trop d'hommes de science, auxquels je rends hommage pour leur découverte ou autre, n'acceptent pas, le plus souvent, de comparer les choses et de tenir compte. Vous avez cité vous-même tout à l'heure un petit peu le spécialiste qui se moque de ce situation. Moi, je me souviens très bien, j'ai été pendant 25 ans dans l'administration des ponts et chaussées, mais je me souviens de l'histoire du barrage de Malpasset lorsqu'il s'est rompu dans le sud de la France. Il avait été construit par l'inspecteur général des ponts et chaussées qui avait lu le rapport du géologue qui disait « Non, pas de barrage là ». Il avait dit, le barrage, le géologue, je m'en fous. Et cet homme est devenu fou après la catastrophe.
Voyez-vous,
j'ai eu la chance de...
Je viens de publier un livre, ce n'est pas un album, c'est pas non plus un recueil disons, de récit d'explorateur. Il se veut plus ambitieux, il se veut dans la lignée de ce très grand historien français, Fernand Braudel, qui a été mon président aux études et mon ami, et qui a écrit ce grand livre sur la Méditerranée. Bon, Thulé n'est pas si vaste que la Méditerranée.
Non.
Mais Thulé, je le rappelle, c'est le nord-ouest du Groenland. Il est habité par le peuple le plus au nord du monde. Mais au-delà de Thulé, il y a une projection jusqu'à l'océan glacial. Or, s'il y a une leçon d'Ultima Thulé, puisque je suis pas à pas mes 14 prédécesseurs, et se trouve que le destin a fait que j'ai vécu avec un peuple encore très traditionnel, disons, dans la grande tradition de ces Inuits, de ces Esquimaux polaires, pour lesquels rien n'est garanti. Quand ils ont été découverts, ils n'avaient pas de bois, ils n'avaient pas de fer, ils n'avaient pas de kayak, ils n'avaient pas d'arc. Vous me direz, mais comment vivaient-ils ? Avec leur intelligence. Ils étaient sur des pontons de glace. Et lorsque les deux bateaux, le grand bateau de mon prédécesseur, John Ross, le capitaine écossais, les a découverts, c'est en le 10 août 1818, eh bien, ces hommes, ils n'étaient peut-être que 20 familles. Et lorsque j'ai vécu parmi eux, ils étaient 60 familles. C'est donc des tout petits groupes, complètement isolés. Ils ont pensé que ces hommes venaient de la Lune. Des arts, qu'ils vivent avec. Ils regardent, comme je vous l'ai dit, en Tchoukotka, c'est l'année de la baleine. Ils vivent avec, en liaison avec ce qui est au-dessus d'eux. Il y a l'étoile polaire, il y a des grandes. Des
comme tous les peuples anciens.
Au bout de deux jours, c'est peut-être la plus grande révélation de ce livre. Comme dit John Ross, ils deviennent impertinents. Ce qui est remarquable dans ce livre, c'est combien ces hommes ont été peu changés par nous, conquérants. Et combien les conquérants, arrogants, corsaires, sûrs de leur maîtrise, ont été peu à peu et avec beaucoup de difficultés transformés. Je dis tout cela, par exemple, nous évoquons la guerre de l'Irak. Nous la craignons tous. Mais je prends l'exemple de l'Arctique. 1818, des expéditions, des grands bateaux, ce qui avait de mieux dans l'amirauté britannique. Ceux qui suivent, ceux qui avaient de mieux dans la marine américaine, puis parmi les Danois, très rapidement, ils étaient à genoux, une fois arrivés. Pourquoi ? Parce que c'est toujours retrouvé cette intolérance. Nous sommes indécrottablement arrogants. Nous sommes sûrs de notre vérité. Et ces hommes étaient, c'était en général souvent de l'armée, ils étaient habillés par l'armée, très mal, donc grelottés très rapidement. Ils mangeaient du bœuf et du mouton salé très rapidement, donc le problème du scorbut. En outre, et c'est peut-être un des éléments forts de ce livre, nous découvrons que ces héros étaient, comme dit Malraux, un tas de petits secrets, c'est-à-dire des hommes vivant comme des prisonniers dans ces navires, dans ces expéditions lourdes, un milieu carcéral, et ils se haïssaient. Ils se haïssaient au point tel que le chef de la première expédition américaine au pôle, Charles Francis Hall, qui avait pour compagnon, c'était la mode aux États-Unis de considérer que la science venait de la Prusse, il y avait un Prussien, un médecin qui était chef de la mission scientifique, Dr Bessels, qui haïssait tellement le chef de l'expédition, car c'est des compétitions, vous savez, la jalousie, c'est le grand levier de l'histoire. Et alors, au retour d'une petite mission, enfin d'une mission en traîneau vers le pôle, assez courte d'exploration, il lui a donné une tasse de café. Il y avait de l'arsenic. Il est mort dans des affres tellement effroyables, parce que chaque fois que ce petit maître à danser, ainsi qu'il l'appelait, ce docteur Besson s'approchait, il disait non, non, car il savait qu'il allait mourir. Et sous les yeux de ses deux compagnons esquimaux, et vous avez dans le livre, j'ai l'enquête faite par le secrétariat à la marine, une caricature d'enquête, et ce n'est pas la gloire de la marine américaine. Mon camarade Charles Francis Hall est toujours dans le nord. Il est là comme une momie. On ne l'a pas conduit au cimetière national d'Arlington. Nous avons plus de dignité pour nos héros. Et c'est un de mes camarades américains qui est allé vérifier le corps et a vu dans sa momie les ongles, les cheveux. Oui, il a été bien empoisonné. Puis alors, l'histoire avance, il y a la grande affaire, Pierre et Cook. Jean-Pierre Cook, puisque il y a...
Un auditeur nous avait envoyé une question.
Jean-Louis Etienne, qui est allé au pôle. Et il est allé au pôle, parce qu'avec la fusée Argos, il est en effet allé au pôle. Mais ce que je révèle dans ce livre, je sais qu'il va faire l'objet d'un débat à Washington, c'est que l'amiral Piret n'est pas allé au pôle Nord. Mais c'est pas seulement qu'il ne soit pas allé au pôle Nord, il a fait croire y être allé. Et bon, c'est une affaire Dreyfus qui nous paraît bien lointaine, mais dans les dictionnaires français, probablement le dictionnaire Larousse, l'amiral Piret est toujours celui qui est allé au pôle Nord. C'est pas vrai, c'est faux. Et s'il y a une vérité, je m'excuse, j'ai présidé le premier congrès international sur le pôle au CNRS. Et nous savons qu'il n'a aucune preuve pour les dingues. Alors, je soulève cette question. Et puis, à l'occasion, je puis faire remarquer, puisque nous avons des habitudes de gauloiserie que les milieux anglo-saxons nous reprochent si aisément, puis-je indiquer qu'il y a plus de dignité chez les explorateurs scientifiques, et que je connais bien le fils esquimau de Piret, abandonné par son père sans aucune reconnaissance, qui est mon ami Kalipalouk, dont la photographie figure, que je connais bien, et qui a été abandonné corps et bien par son père. Mais c'est un héros des États-Unis. Et puis l'histoire avance, et enfin arrive, je dirais, un archange du Nord, qui est un Danois qui a du sang esquimau, Knud Rasmussen, qui est un homme admirable, parce que l'histoire change. Ce n'est plus les Esquimaux ne sont plus des valets qui doivent, comme des Sherpas, suivre les expéditions ou les précéder. Non, ce sont des égaux. Et là, vous découvrez peut-être la plus grande préoccupation qui est la mienne, comment faire en sorte qu'un peuple traditionnel puisse, à son rythme, aller vers nous et nous aller vers lui. Il n'y a qu'une solution, c'est découvrir leur univers avec eux. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a fait une grande expédition, en traîneau à chien, avec des moyens très modestes, qui est allé du Groenland au Canada. Et en traîneau à chien, ils ont construit l'histoire d'aussi grandes nations, l'histoire arctique, que le Canada et l'Alaska. Et puis, ces hommes toujours très conservateurs, parce que les populations traditionnelles, quand elles sentent le malheur arriver, se ramassent, donc prenant un peu de fusil, du bois, mais restant dans leur demeure, très prudents. C'est ainsi que je les ai connus. Je les ai connus vraiment dans la tradition, vraiment haillant dans les moments de grands malheurs. Vous savez, les malheurs, ils arrivent quotidiennement. Vous êtes sur une banquise, elle se brise, vous pouvez être emmené avec vos chiens et connaître, disons, la néolithique.
Ah, oui.
Et manger vos chiens, et peut-être manger vos dernières guêtres. Hein. Et puis, est arrivé, j'en termine dans le récit de ce livre, 3000 martiens.
Voilà.
Eh oui, en juin 1951 sont arrivés 3000 martiens, c'est les Américains, de la US Air Force, qui n'ont pas débarqué au Koweït, mais là ils débarquaient à Thulé. Ils construisaient la grande base gigantesque de Thulé. Et ils l'ont construit. Vous êtes un homme de symbole, sans réfléchir.
Hélas.
Ils ont choisi le lieu sacré, un mythe, Thulé. Ils pouvaient se mettre 100 km plus au sud, plus à l'ouest, ailleurs. C'était il y a 2 ans. Ils sont mis donc au cœur de ce territoire. Il se trouve que j'étais là. J'ai demandé à ce qu'un accord soit signé entre les autochtones et le gouvernement, enfin l'autorité, qui était un amiral. D'abord un général de l'US Air Force, puis ensuite un amiral. Ça n'a pas été accordé, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'accord. Mais nous sommes là des écrivains, des hommes de pensée. Eh bien, il y a quelques réconforts dans la vie. Moi, j'ai écrit ce livre, Les Derniers Rois de Thulé, qui est un livre qui a fait le tour du monde, traduit dans 20 langues. Et il y a eu 2 éditions au Danemark. Jamais je n'ai eu l'opinion danoise contre moi. Et pourtant, j'ai dénoncé cette situation intolérable d'un peuple livré à une force militaire dans le cadre de l'OTAN sans qu'on y prenne garde. Et puis par la suite, il y a un B-52 qui s'est écrasé avec 4 bombages qui se sont brisées. Heureusement, elles n'ont pas explosé. Mais enfin, elles ont contaminé les eaux. Et on a demandé aux autochtones de balayer la neige. Tout ça est intolérable. Eh bien, 40 ans après, le Premier ministre du Danemark a décidé d'établir une commission de 3 hauts personnages. Il y a un évêque, il y a un juge, une grande personnalité. Et on m'a demandé comme grand témoin d'exposer ce qui s'est passé dans cette dépossession lors de la conquête. Il n'est pas exclu, car les événements sont tellement extraordinaires aujourd'hui, que les Esquimaux, sous l'influence de Dom de Cœur, deviennent copropriétaires de cette base nucléaire, qui deviendra un jour une base civile, car elle ne sert plus au titre de l'aviation, elle sert enfin, de l'aviation de combat, elle sert pour les missiles, pour les radars. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le Groenland est autonome, donc c'est une commune, et il n'y a aucune raison que le territoire ne fasse pas l'objet d'une convention et d'une location. Quel voyage ! Dans une vie qui est la mienne, en 40 ans, j'ai vu ces peuples passer, disons, d'un temps très, très traditionnel et très bientôt historique à ce temps nucléaire. Et pour achever ce voyage, il se trouve qu'un jour, j'étais attelé sur un traîneau à chien et je rêvais, parce qu'il m'arrive de songer. J'étais là avec les chiens. Oui, ils avançaient, c'était... Et soudain, je vois un homme qui ne ressemble pas tout à fait à un Esquimau. Et lui voit que vraiment, je ne devais pas du tout être un Esquimau. Oui, il savait que c'était moi, et je savais que c'était lui, qui était un Japonais. Ce Japonais, qui est toujours là-haut, eh bien, un jour à Tokyo, il vous ferait peut-être cet itinéraire, après cette rencontre, eh bien, était là, stressé. Alors, il va dans une librairie d'occasion, puis il prend un livre, c'était le mien qui est traduit en japonais. Il le feuillette. Et dans cet univers de Tokyo, vous connaissez, où on a des masques sur la bouche, on est pressé, enfin, arrive à se mettre dans un recoin, et puis il a dit, mon Dieu, mais il y a des hommes libres, qui avec des épuisettes attrapent les oiseaux, ils sont heureux, quelle vie. Il est japonais, il est prudent, il s'organise, il prend un congé de 22 jours, c'est pas long, vous savez, il faut pas perdre
jamais beaucoup.
L'entreprise va à Tulé, regarde, puis revient à Tokyo, démissionne de tout, tout abandonne et part à Tulé, à Sirapalu, le petit village dont je suis, prend femme, a des enfants, et il me dit, il l'a écrit, parce que c'est une lettre qui figure dans le livre, à Jean Mallory qui a changé ma vie. Et je lui ai répondu, c'est vous qui êtes en train de changer la vie des Esquimaux. Parce qu'ils sont dans un univers brouillé, ils sont en train de perdre leur fiche d'identité, c'est si difficile. Mais ils ont confiance parce qu'ils voient des Yamaha, c'est japonais, ils voient des Sony, c'est japonais. Et vous êtes leur cousin. Vous êtes représentant du soleil levant. Vous êtes un peuple qui a réussi. Donc, eux aussi, peuple du Grand Nord, ils réussiront. Vous êtes l'espoir qui les aide à se lever. Et voilà la vie qui s'est évoquée dans cette ultime affilée, avec des drames continus. Mais je crois qu'il y a une leçon. Et c'est une morale, si vous me la passez. Cette morale, c'est que les peuples de la tradition sont une forme de notre avenir. Moi, j'en suis convaincu, l'Occident n'a plus grand-chose à dire. Nous sommes dans une impasse majeure. On ne va pas continuer à construire des voitures, construire des industries. C'est pas possible. Et il y a une philosophie alternative qui est la philosophie des peuples de la tradition. Des peuples qui vivent sans souci de la production. Là, je viens de la Tchoukotka, j'ai pas vu un mendiant. J'ai vu des enfants qui étaient si passionnés par tout ce que je leur racontais. Alors, Cousteau est un grand, grand homme. Je viens vous dire que notre réputation est actuellement à pour vecteur Patricia Cass. Vous savez, on sifflotait dans ma classe parce que j'aime aussi rencontrer ces enfants à l'école. J'étais instituteur dans une petite école soviétique, une petite école sibérienne, parce que je cherche à comprendre ces systèmes scolaires. Et je suis convaincu que tous ces systèmes scolaires dans les populations littératurales sont mauvais. Parce que ces populations ne saisissent pas, ce sont des populations de mémoire. Ce sont des populations à image. Et ce qu'elles souhaitent, c'est saisir avec leur processus cognitif, qui sont très différents des nôtres, sous forme d'image. Or, comme vous savez que les syndicats d'enseignants sont très conservateurs, c'est vrai partout. J'ai fait les mêmes propositions car j'ai été dans une école esquimaude canadienne. Et j'ai demandé à ce que l'ordinateur, l'enseignement par film, soit donné. Et c'est ce que font j'ai été dans des écoles japonaises, dans le même souci, qu'on réforme totalement l'enseignement, la pédagogie pour les populations de littérature orale, qui iront plus vite dans la compréhension de ce qu'il est leur et qui garderont leur mémoire. Alors que, incontestablement, c'est la sélection par l'échec à l'heure actuelle. Si vous voulez, au Canada, en 1867, ça a été les premières écoles, dans les groupes indiens, on a formé très peu de médecins, très peu d'ingénieurs. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il y avait un manque d'intelligence, c'est parce que c'est un processus qui n'est pas le leur. Vous savez, une grande partie de la population paysanne française ne lit pas. Mais c'est pas parce qu'elle ne lit pas qu'elle n'est pas sage, qu'elle n'a pas une civilisation. C'est des idées de professeurs qu'il faut lire pour penser. C'est tout à fait. Je suis très heureux qu'un milieu de doctes lise, mais une grande part de la civilisation, de la société, c'est une société orale.
Et bien sûr.
Le maghrébin, le portugais. Il n'a pas besoin de consulter un livre pour pouvoir penser.
À commencer par la tradition celtique française.
À l'école, il faut pas casser ce mouvement, cette approche. Donc il faut que, je crois, j'en termine, qu'est-ce qu'un enseignant ? C'est un homme qui élève l'autre, éducaré, redressé. Moi j'essaie, au CNRS et aux études, de chercher le meilleur chez les étudiants et de les pousser dans la direction qui est la leur. Mais si j'avais un Maghreb, j'ai eu un élève esquimau qui venait du nord de l'Alaska. Très vite, ça ne l'intéresse pas, le papier, tous ces livres. Il pense autrement. Pourquoi vouloir obliger tout le monde à penser de la même façon ? Je crois qu'il y a vraiment une barrière entre nos sociétés industrielles et ces sociétés traditionnelles, qu'avec beaucoup de truculence, comme là les grands explorateurs qui pensaient dominer, avancer avec leurs bateaux, avec leurs moyens extraordinaires, et qui rapidement s'effondraient, étaient soumis à des crises. Je crois qu'on veut forcer ces peuples à penser comme nous. Résultat, ils restent dans leur réserve, dans leur ghetto, et puis ils gagnent du temps. Mais ils pourraient avoir une double vie en pensant aussi élevés que nous, car ils ont une grande civilisation. Mais nous avons toujours été convaincus, moi toute mon éducation était ainsi faite, au lycée, je suis né en Allemagne, en Rhénanie, puis j'ai été au lycée Condorcet, j'ai toujours été formé, selon lequel il fallait coloniser, il fallait avancer, faire développer des peuples en arrière. Et ça c'est une idée tout à fait fausse, ce n'est pas parce qu'ils sont en arrière techniquement qu'ils ne sont pas à notre niveau. Ils sont sur le plan culturel, sur le plan... Écoutez, les Africains, hein, qu'est-ce qu'ils sont ? Nous africanisons dans notre art. Mais enfin, la sensibilité de l'Occident est complètement changée par le jazz. Le rock en provient. Bon, que voulez-vous, les jeunes, bien sûr, ils aiment la musique classique, mais le rock, le jazz, ça les passionne. Alors, voilà des hommes qui ont... Vous n'allez pas mettre en équation, la production, l'industrie, et puis l'art, la croyance, la religion. C'est pas possible. Et la civilisation est faite de toutes sortes de forme de
l'éléments. Je crois qu'il n'est pas meilleur pour l'occidental de s'africaniser que pour l'africain de s'occidentaliser. Et il n'y a rien à gagner à adopter les mœurs ou les habitudes ou les coutumes ou les traditions culturelles d'un peuple radicalement différent. On peut s'y intéresser, mais je crois que ce que vous disiez à propos des Inuits qui sont un peuple habitué à communiquer par l'image, ils sont donc réfractaires à la chose écrite. S'il faut changer effectivement l'enseignement pour leur permettre d'accéder à plus de connaissances à travers leur méthode de pensée, à travers leur processus cognitif traditionnel, c'est-à-dire l'image, c'est pas pour autant que nous, on va changer nos méthodes.
Du tout. Nous sommes d'une autre culture, nous sommes d'une autre histoire, mais il y a absurdité à vouloir l'imposer aux autres, de même que ce que je disais entre cette droite, cette gauche, chacun a un apport. C'est la femme de La Fontaine que l'on connaît à propos des membres et l'estomac. Nous avons des jambes, des bras, une tête, tout ceci concourt à constituer un homme et une vitalité. Mais c'est vrai, notre Occident a son destin et on ne le changera pas. Mais à côté, vous avez des sociétés traditionnelles qui sont, j'en suis convaincu, en réserve de l'histoire. C'est pas par hasard qu'elles hibernent, qu'elles attendent. Et l'histoire est longue. il y aura 2000, il y aura 3000, il y aura 4000, il faut l'espérer. Et c'est à ce moment-là que l'histoire de l'humanité rebondira avec ses peuples. Mais ne les accablons pas
entre
temps. Ne les accablons pas entre temps.
Ce qui me frappait tout à l'heure, c'était que quand vous évoquiez l'actualité du monde, enfin la situation dans laquelle on se trouve, vous parlez du réchauffement, de la fonte des glaces, de la montée du niveau des océans, des tremblements de terre, des grandes catastrophes telluriques, tectoniques qui vont se produire. Je pensais à Kali Yuga.
Bien sûr.
On est en plein dans la fin d'une ère
qui est caractérisée, où d'ailleurs tout le monde se rend compte, je suis le premier, qu'il n'y a plus de solution. Et il n'y a plus
d'opinion. L'opinion a du pouvoir.
Oui, mais il y a une chose énorme qui nous sépare, malheureusement, de ces sociétés traditionnelles et de nos sociétés occidentales. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, avec juste raison, c'est que les unes ont encore la notion du sacré, les autres ne l'ont plus du tout, et ont mis à la place les faux dieux, les fausses stars, les faux ceci, les faux cela, qui n'ont plus rien à voir avec la notion du sacré. Plus rien. Alors ça, c'est terrible.
C'est vrai.
Et c'est là où on se rend compte que les événements vont peut-être aller plus vite que l'on ne pense. Et vous avez raison en disant que ces sociétés traditionnelles sont en réserve. Ce n'est pas pour rien qu'on les redécouvre actuellement. C'est tout le processus. Bon, vous avez reçu ici même à Radio Courtoisie Jean Faure, qui est donc un de mes collaborateurs dans la revue Atlantis, et qui dans son livre « Le cycle de l'humanité adamique » que j'ai fait éditer, que j'ai préfacé, rappelle justement tout un ensemble de choses à ce propos. Nous sommes proches d'un certain nombre de catastrophes dont, à mon avis, nous pourrions éviter la plupart, car n'oublions pas que l'homme est libre, si nous avons justement conscience de ces différentes choses, conscience de l'existence et de la valeur de ces sociétés traditionnelles, de ce qu'elles sont en mesure de nous apporter, alors que nous avons certainement des choses à leur apporter, mais malheureusement, je crois que nous prenons le mauvais sens.
Oui, monsieur.
Nous prenons les chemins en sens interdit.
Monsieur, il ne faut pas désespérer les auditeurs.
Ah non, surtout pas. Je suis toujours optimiste.
Songez aux immenses progrès des sciences sociales, nous nous parlons. Il y a 50 ans, on n'y croirait pas, tout ce que nous disons, que les Kanaks est une intelligence, que les Esquimaux est quelque importance, on aurait ri, Moi, dans ma jeunesse, quand j'ai commencé ces études, m'ont dit, tous ces poignées de peuples qui vont disparaître.
Parce que depuis un
certain nombre... Nous avons fait des progrès immenses.
Ça a été récupéré, subverti, cette ouverture vers l'autre.
Ça
a été récupéré sous la forme de l'immigration, ça a été récupéré sous la forme des Beurs au pont de l'Allemagne, qui expriment leurs différences culturelles maintenant. Ça a été récupéré sous la forme des Zoulous de banlieue qui pratiquent le viol collectif, et ça a été totalement perverti. C'est-à-dire, on part d'un bon sentiment, le vôtre, qui est un sentiment rousseauiste, on le détourne totalement, et le cosmopolitisme mondial et les multinationales l'utilisent pour créer le jazz et le rock et homogénéiser totalement toutes les cultures, parce que quand on voit les Pasquans en l'île de Pâques, ou quand on voit les Esquimaux, et quand on voit que ces gens-là vont écouter la même chienlit anglo-saxonne sur les médias, on se dit que si l'acceptation de l'autre primitif que l'on méprisait au 19e siècle du temps donc du racisme de l'homme blanc et que le 20e siècle a donné donc le sanglot de l'homme blanc, si on constate que cette récupération de l'autre, que cette reconnaissance de l'autre débouche sur une subversion, on a d'autant moins de raisons d'être pessimiste et d'autant moins de raisons de se féliciter de la reconnaissance des cultures traditionnelles. C'est ça le problème.
Ah sinon. Monsieur, vous ouvrez un grand débat. Il ne faut jamais avoir peur de l'autre. Vous prenez des...
Ah mais je n'ai pas peur de l'autre, je dis simplement ce que la société en fait. Alors, de l'arabe, elle fait un beurre, du noir, elle fait un espèce de zoulou de banlieue, etc., etc.
Le beurre ne sont même pas l'expression de toute la civilisation arabe.
Mais c'est bien ce que je dis.
Donc,
c'est bien ce que je dis.
C'est une malheureuse caricature.
C'est cette société qui défigure les autres comme elle nous a défigurés. Mais que la défiguration se produit maintenant à un niveau mondial et plus seulement à un niveau local. C'est-à-dire, on reprend donc, c'est l'expression qu'utilise Guénon, il dit à la fin du cycle, Caïn achèvera de tuer Abel. Abel, c'est l'homme nomade. Abel, c'est l'homme, c'est le pasteur. Et le pasteur, c'est à la fois le symbolisme du berger de l'être et en même temps du berger des troupeaux. Caïn, c'est celui qui est maudit, c'est celui qui tue, c'est l'agriculteur, le sédentaire qui ensuite crée la ville, c'est son fils Toubal-Caïn qui invente la sidérurgie, et c'est Caïn qui crée la première ville qui s'appelle Enoch. Donc c'est cette civilisation. Et le meilleur exemple que l'on puisse voir, j'en avais parlé une fois dans une chronique dans Minute sur Wolfen, c'est les Indiens qui sont détruits totalement par les cow-boys qui créent ensuite les énormes mégalopoles sataniques avec les tours infernales et les tours infernaux des métropoles américaines. Et c'est de cette manière qu'on a systématiquement tout broyé. Et on en arrive au paradoxe, c'est que Caïn a vu l'œil de Yahvé, il a le remords, merde, j'ai tué mon frère Abel, j'ai été vraiment monstrueux, allez hop, je transforme les Arabes en beurre, je transforme le Maasai en Zoulou de banlieue, je transforme l'Esquimau en copain ou Raoni en copain de Sting qui va passer à la télé, et on en arrive à une espèce de grande parodie, de grand carnaval final, toutes les cultures traditionnelles devant servies, non pas, comme le pensait Mircea Eliade, de moyen de se rappeler la première chute. Il dit, Mircea Eliade, c'est juste une petite digression, il dit, à la fin du sacré et du profane, il y a eu la première chute, et l'homme s'en est souvenu. Ça, c'est les cultures traditionnelles dont vous parlez. Et il y a la deuxième chute, on a oublié le souvenir de cette chute précédente. Et c'est la déchéance de l'Occident, qui était une société traditionnelle au Moyen-Âge, et qui progressivement, depuis cette époque, est devenue totalement apostat. Et vous parlez de Saint Bernard, c'est notre saint primordial en Occident, au XIIe siècle. Et on en arrive à ça,
à une situation épouvantable. Permettez de vous répondre, parce que il y a de l'apocalypse chez vous. Et l'histoire est longue. Et vous vous placez du point de vue de l'Occident qui vit dans un espace assez réduit toute son histoire et qui est capable de soubresauts absolument extraordinaires. Les événements que nous vivons aujourd'hui sont tellement extraordinaires que véritablement il faut être prudent. Mais dans la courte vie qui est la mienne, j'observe que les peuples traditionnels se lèvent, s'organisent. Voyez-vous, les Inuits, on les voyait dans les bidonvilles, knock-outés, ça existe, c'est vrai aussi. Mais je les vois aussi s'organiser. Je vois des élites, des hommes que j'ai connus dans des îlots de neige, qui aujourd'hui sont des PDG de sociétés pétrolières. Songez par exemple
c'est au Canada. C'est pas un modèle de société traditionnelle,
Il faut retirer cette idée selon laquelle une société qui n'est plus traditionnelle est une société qui n'existe plus. Ce n'est pas parce que les Inuits que j'ai connus ne sont plus en peau de bête et ne sont plus dans leurs igloos qu'ils ne sont pas moins esquimaux. L'histoire est longue. Les Français beurre ne sont pas moins Français dans la lignée de Vercingétorix parce qu'ils sont musulmans. C'est ça l'histoire. Du reste, vous savez mieux que personne qu'une des bases même de notre histoire gauloise est une histoire avec des Goths, des Visigoths, des Vandales, une histoire très compliquée.
Ouais, mais c'est long. Il y a une culture commune, il y a
une culture européenne. Mais elle se fait peu à peu, et pour revenir aux sociétés traditionnelles, c'est long de faire naître des sociétés nouvelles. Alors elles passent de la tradition au monde moderne, et je vous le dis, par exemple, le Groenland est un territoire autonome. C'est une jeune nation qui s'affirme. Vous avez toute l'Afrique a été avec des crises, mais l'Europe s'est fait ainsi. Vous croyez que l'Europe de la guerre de 100 ans était facile? Elle était terrible. Cette Afrique est en train de s'affirmer. L'Asie se dresse.
Mais il y a des changements par rapport à cette époque.
Il y a des changements. Écoutez,
la population du Nigeria double tous les 21 ans. Il y a un Africain sur 5 qui est séropositif en Afrique orientale, ça c'était pas des critères qu'on avait avant. Et vous parliez tout à l'heure de la destruction à un niveau hyper accéléré de la couche d'ozone et à la fonte hyper accélérée des glaciers. Ça se passe pas au niveau d'une modification vurmienne qui prend 4000 ans. Là c'est vraiment rapide.
Qui sait, peut-être trouvera-t-on des solutions. Je vais vous prendre un exemple et j'en achèverai pour nous donner confiance dans ces affirmations de peuple à double vie, le peuple japonais. Le peuple japonais, avant 1867, avant l'ère Meiji, était, disons, dans un Moyen-Âge. Et grâce à son école, qui a une affirmation, il est arrivé à construire une nation moderne, mais en gardant la tradition. Il y a deux vies, deux voix. Donc c'est parfaitement possible d'avoir cette double vision. C'est difficile. Bon, il y aura des peuples qui disparaîtront, mais ça c'est toute l'histoire. Mais je reviens à ce que je dis. Je me souviens, j'assistais à un débat, c'était à la télévision, à propos d'un film très, très, très spirituel sur un homme de la préhistoire, et je crois que ça se passait en Afrique du Sud. Et il y avait des Indiens dans le débat. Et des Indiens des plaines. Je ne sais pas si vous avez assisté à ce débat, et il y avait des Africains, mais il y avait des Indiens, qui représentaient ce nouveau courant des intellectuels indiens. Bon, ils sont dans les réserves, mais les réserves s'affirment. Elles ont connu des coups terribles, mais il y a un million d'Indiens, et bon, ils ont leur culture indienne, et cet homme était stupéfiant par son intelligence et d'Indien. Et d'homme du monde moderne. Il y a une intelligentsia nouvelle, et il ne faut pas que nous soyons trop marqués par un monde, je dirais, centripète, le nôtre, qui vit une crise, mais qui vit également un rassemblement. Enfin, cette Europe apparaît tout de même se faire. Monsieur, j'appartiens à une génération pour laquelle l'Allemand était un ennemi. Enfin, c'est tout de même extraordinaire qui est en train de se passer. Le mur de Berlin, devriez y songer, c'est un phénomène extraordinaire. Alors, il y a des aspects positifs. Bien entendu, il y a le sida, mais il nous frappe tous. Bon, il y a eu des épidémies épouvantables autrefois. Vous savez, monsieur, chaque matin, le soleil se lève.
Mais avant, ça venait, c'était des châtiments qui venaient de la nature, qui venaient de l'extérieur, alors, au lieu que là, ils sont produits par l'homme. Mais ce que vous dites est intéressant, ça me rappelle des écrits d'Éric Murez, qui était un spécialiste donc du grand monarque, et qui donnait trois modèles de civilisation. Il disait, il y a les civilisations traditionnelles, bon, celles dont on parle, ou celles qu'a illustré Mircea Eliade, ou celles qu'a défendu René Guénon, les civilisations pragmatiques, les nôtres, et les civilisations intégrées, c'est celles que vous nous présentez sous la forme de ces Indiens patrons de sociétés pétrolières, ou de ces Japonais qui quittent l'ère samouraï pour entrer, ou l'ère d'avant le Meiji, pour entrer dans l'ère de Sony et des multinationales. Mais je ne sais pas si au Japon, en ayant militarisé à l'extrême leur nation comme ils l'ont fait, en poussant 600 à 1000 jeunes au suicide à 14 ou 15 ans, et je critique pas les Japonais, parce qu'en France, on tue les jeunes, mais plus tard, ils se suicident entre 20 et 25 ans quand ils se sont rendus compte que le système scolaire socialiste les a feintés, au lieu qu'au Japon, on les traumatise dès l'enfance, dès l'âge de 6-7 ans, et ils se suicident entre 8 et 15 ans en général. Ça commence un peu plus tôt que chez nous, mais c'est aussi nombreux. Mais bon, je sais pas si on peut arriver à créer un modèle de société intégrée. Je ne sais pas si au Japon, il y a... quand on dit, effectivement, il y a un empereur traditionnel, vous avez préfacé un livre sur, justement, l'ère samouraï, Jean-François m'en a parlé la dernière fois. Et donc, il y a cet empereur à 26 siècles. Mais j'ai discuté avec des jeunes japonais, mais ça les fait rigoler. Akihito ou Hirohito, ça les fait rigoler, ça leur hausse les épaules. Alors, quand ils n'ont pas été déformés par la propagande américaine qui fait de Hirohito le plus grand monstre de tous les temps, alors que les Américains qui ont balancé deux fois la bombe atomique ont eu, mais l'insane culot de dénoncer les Japonais, d'en faire des criminels de guerre autour des jugements. Donc on se retrouve avec une jeunesse japonaise qui adore Madonna, qui adore ceci, qui adore cela, et qui hausse totalement les épaules devant l'empereur traditionnel. Mais quand vous vendez votre âme à l'argent, et quand vous vendez votre âme au Walkman de Monsieur Sony, je ne sais pas si vous arrivez à préserver si bien que ça une société traditionnelle. Et je dis ça en tant qu'occidental, vous me dites que je sais pas trop de quoi je parle, parce que je parle d'un point de vue occidental, mais je parle d'un point de vue occidental, d'un point de vue de chrétien traditionnel, qui sait pertinemment ce que le monde de l'argent, ce que le monde du cosmopolitisme et ce que le monde de la récupération tous azimuts amène et surtout détruit dans une civilisation.
Monsieur, vous dites que vous êtes chrétien. Savez-vous que l'impératrice est chrétienne ?
L'impératrice japonaise, vous voulez dire ?
Oui, oui. Savez-vous...
C'est bien la preuve que le Japon n'est plus traditionnel et qu'il n'est plus lui-même.
Mais si, c'est compliqué, monsieur. Le Japon a été... vous savez que quand François-Xavier est arrivé, il a débarqué à Kyoto, à Nagasaki...
la première chose qu'ont fait les Japonais, ça a été de crucifier les missionnaires parce qu'ils ont trouvé la croix très
bien. Vous allez trop vite, monsieur. Auparavant, il a évangélisé. Peu de temps, mais la semence a été telle, et pourtant il est rapidement parti, puisqu'il est parti en Chine où il est mort, où il a été tué... il y a eu un éveil au christianisme qui était extraordinaire. Et il était tellement important que le shogun en a pris peur et a pourchassé, en effet, les chrétiens, il les a martyrisés. Beaucoup sont partis dans le nord, dans les mines, pour poursuivre leur christianisme anonymement. Et ces chrétiens existent toujours. Et je vais vous dire, ils existent à un point tel. J'étais dans une trappe à Akodate. Cette trappe a été fondée par un grand nom de l'histoire de France, qui est le cousin du compositeur Berlioz. Et ce prêtre des missions étrangères cherchait à convertir les Aïnous et les Japonais. Hélas, il n'y parvenait pas. Alors il s'est dit, que faire si ce n'est de fonder une trappe? Il est allé chercher des Normands dans la région de Kriegbeck, près de Cherbourg, et ces Normands leur ont donné une terre qui n'était pas très bonne, près de l'ouest, nord-ouest d'Akodate. Et puis sur 400 hectares, ils ont gratté les pierres, et puis ils ont fait développer cette trappe. Et aujourd'hui, cette trappe est entièrement japonaise. Et il y a des trappistines, et il y en a dans tout le Japon. Et ce 1% de chrétiens, c'est l'opposition. Quand j'étais au Japon l'an passé, j'étais invité par le gouvernement du Japon, eh bien, il y a eu des mouvements, car ce pays est un pays violent. Il y a eu des guerres civiles terribles, avant, disons, le 18e, 19e, c'est pas un pays simple. Et le maire de Nagasaki a évoqué les responsabilités de l'empereur. C'est intolérable pour un Japonais. Car les Japonais, vous avez des jeunes qui sont peut-être d'esprit, en effet, très laïque. Mais pour la plupart, c'est un mythe de l'empereur. Et de penser que l'empereur pouvait être nommément considéré comme responsable de la guerre était intolérable, en particulier pour toute une extrême droite qui est très militarisée. Et vous savez comment on règle les problèmes au Japon? Eh bien, on s'approche de cet homme lors d'une manifestation et on le tue. Et il a été gravement blessé. Bon, il a survécu. Mais il est singulier qu'une des formes d'opposition, une des formes de tolérance au Japon, dans la crise qui est sous-jacente de ce pays qui vit à une vitesse Spoutnik, c'est en effet le catholicisme. Et ce catholicisme qui date de François Xavier. C'est pas un pays simple, c'est un pays de contradiction.
Merci Jean Mallory, on vous écouterait pendant des heures. Malheureusement, on doit aborder d'autres sujets. Puis on vous écouterait surtout débattre pendant des heures avec Nicolas Bonnal, parce qu'au fond, je pense que j'ai l'impression que c'est une fausse opposition. Si on réfléchit bien, il y a le même attachement à la tradition d'un côté et de l'autre. Je crois que d'un côté, il y a le sens que la tradition est violentée, écrasée par le progrès, par ce qui arrive aujourd'hui. Et de l'autre, la conviction que cette tradition, elle peut féconder le progrès. Alors au fond, c'est l'éternelle dichotomie ou l'éternelle opposition.
Je ne suis pas un pessimiste actif, je suis optimiste.
Je trouve extraordinairement optimiste, c'est plutôt rassurant pour un homme qui a fait 50 fois le tour de la Terre, qui est allé dans tous les lieux les plus perdus du globe et qui a vu la misère la plus totale partout. Je trouve que c'est rassurant que vous soyez optimiste. Je me demande, je ne sais pas si vous êtes vraiment rousseauiste, comme le disait tout à l'heure Bonnal, j'en suis pas convaincu. Je crois que quand on se frotte à l'expérience que vous avez connue, on ne peut pas rester longtemps rousseauiste. Mais je vous remercie d'être venu nous parler d'une façon aussi passionnante, aussi passionnée.
J'admire votre esprit de liberté.
Ça, c'est quand même la moindre des choses. Je rappelle le titre de votre livre. C'est un livre magnifique, hein, vraiment. Bon, on en a finalement assez peu parlé. Vous nous en avez exposé brièvement le contenu au début. J'espère que ça a donné envie aux auditeurs de le lire, parce que c'est une merveille. C'est un très beau et très grand livre. C'est un livre parfait pour les fêtes. Il s'appelle Ultimatulé. Il est publié aux éditions Bordas. C'est donc un livre de 320 pages, format 25-32. C'est un grand format, je l'ai dit. 650 illustrations en couleur et en noir, 48 cartes, un index des noms, des lieux, des thèmes. Ça fera plaisir à Jean Ferré qui considère qu'un livre n'existe pas s'il n'a pas d'index. Je pense que vous êtes du 120. Et le prix est tout à fait raisonnable, me semble-t-il, pour un objet de cette qualité. C'est 495 francs, c'est-à-dire le prix d'un beau cadeau de Noël pour quelqu'un qu'on aime bien. Et si on aime bien quelqu'un, on peut très facilement lui offrir ce livre. Ultimatulé aux éditions Bordas de Jean Mallory. Et puis on peut aussi se jeter sur la collection, l'admirable collection Terre humaine, dont un des derniers titres est Le quêteur de mémoire de Pierre-Jacques Ezélias, qui est le second livre, celui qui suit.
Vous avez deux minutes, j'aurais parlé d'un titre auquel vous n'avez pas beaucoup songé, qui est d'une tribu inconnue.
Les Hopis, non?
En France, non, pas du tout.
Ah, c'est pas ça.
Inconnus, ils sont 500 000. C'est un peuple inconnu, ce sont les handicapés. Et ce livre, qui a pour titre « Vivre à corps perdu » de Robert Murphy, est un livre terrible. C'est le livre d'un grand anthropologue, de classe de Lévi-Strauss, qui est directeur du département d'anthropologie à l'Université Columbia, un soir, il a eu mal dans le dos. Et puis ça s'est développé très rapidement, et il est tétraplégique. Il ne reste plus vivant que la tête. Alors, il a cherché à se suicider. Quand un malheur pareil vous frappe, il était spécialiste en effet des alliés amazoniens, et il pouvait bouger, c'est une petite chaise. Mais il faut être deux, et sa femme lui a fait comprendre qu'il avait mieux à faire, et c'est de se battre pour les paralysés. Il s'est battu. Il s'est battu en écrivant d'abord ce livre qui explore la paralysie qui monte dans tous les membres, et puis explore ces rapports extraordinaires que l'on a d'abord avec les siens, sa femme, puis les collègues. Et je découvre, c'est vrai, quand un paralysé parmi vous, il est en petite voiture, c'est un nain. Nous, nous sommes des géants. Et on a tendance à considérer ces hommes, parce que malades, débiles. Ce qui fait qu'on parle toujours à voix forte. Et en disant, oh, si ça m'arrivait, je me flinguerais, ou je ne viendrais pas troubler cette réunion. C'est un livre d'espoir parce qu'il s'est battu à l'Université Columbia, a fait réformer totalement cette université pour donner accès aux hommes en petite voiture. Ils sont 5 millions aux États-Unis. C'est pas seulement ceux qui sont frappés par la maladie, mais c'est tous ces jeunes qui, en motocyclette, en voiture, sont gravement blessés, sont à l'hôpital de Garches et ailleurs. C'est un grand, grand livre.
Et... C'est « Accord perdu ».
Vivre
à corps perdu de Robert Murphy. Merci Jean Mallory, merci à l'explorateur, merci au directeur de la collection Terre humaine. Je suis désolé Nicolas, on est vraiment tenaillé par le temps. Monsieur Jacques Darès, je voudrais que vous nous parliez très brièvement, s'il vous plaît, de la conférence que vous préparez, qui sera consacrée au siècle de Saint-Bernard, oui. Qui sera donnée par monsieur Jean Clouet. Ah non, non, pas donné par Jean-Claude, qu'est-ce que je raconte, voyez qui est la puissance invitante en quelque sorte.
Oui, disons qu'à la mairie de Vincennes, samedi prochain 24, donc dans 3 jours, et dimanche 25, ont lieu 4 manifestations importantes qui constituent pour nous, Atlantis, les organisateurs, la 10e biennale art et littérature des ésotérismes traditionnels. Et il y a 4 parties, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, le samedi, le dimanche et les 3 jours qui suivent, tous les après-midi, une exposition d'œuvres d'art à caractère symbolique, avec des icônes, avec toutes sortes de choses, et y compris notre ami que j'ai près de moi, le responsable des éditions du Cadran, où vous pourrez voir...
Ah, ça, l'éditeur fou.
L'éditeur fou, bon, mais vous pourrez voir des choses merveilleuses. Au milieu de cette exposition... Toute l'après-midi de samedi prochain 24, une soixantaine d'auteurs dédicaceront leurs livres et je crois pouvoir vous dire, j'attendais ce soir une confirmation, que quelqu'un que vous connaissez bien, que nous connaissons bien ici à Radio Courtoisie, Denis Rousselot, doit y participer. Avec bon nombre de personnes dans les sciences traditionnelles, nous aurons le livre de Claude Clément, du général Claude Clément sur Saint-Bernard. Car nous avons profité de ce siècle, disons de la commémoration du 9e centenaire de Saint-Bernard, pour placer l'ensemble de notre manifestation dans ce cadre-là. Alors, le samedi soir, nous organisons à l'église Notre-Dame de Vincennes un grand concert où il y a déjà près de 300 places de retenue, chants sacrés et traditionnels de la Sainte-Russie, avec les Cosaques de Russie, et dimanche après-midi, toujours à Vincennes, au centre culturel Georges Pompidou de Vincennes, pas celui de Paris, tout à côté de la mairie, il y a un colloque autour du siècle de Saint-Bernard, avec comme participants Marie-Madeleine Davy, maître de recherche au CNRS, Jean Chevalier, ancien directeur à l'UNESCO, docteur en théologie, Paul-Georges Sansinetti, chargé de conférences à l'école pratique des hautes études à laquelle appartenait donc Jean Mallory, Jacques Bonvin, écrivain, géobiologue, Jean Faure que vous connaissez bien, et moi-même qui animerai les débats et qui en fera la conclusion sur l'importance et l'actualité en quelque sorte du siècle de Saint-Bernard pour notre fin du XXe siècle. Et tous les livres qui seront présentés seront d'ordre traditionnel Pour essayer de faire comprendre, car c'est ça le but de l'association Atlantis et de sa revue, c'est de faire comprendre qu'à travers les authentiques traditions, y compris celles que nous évoquions tout à l'heure, il y a des leçons absolument extraordinaires à trouver, et peut-être des possibilités de mieux comprendre l'époque dans laquelle nous sommes, pour donc mieux préparer et comprendre comment nous devons faire l'avenir de nos enfants.
Merci Jacques Darès. Pardonnez-moi de vous donner aussi peu la parole, mais je crois que l'entretien que vous avez eu avec Jean Mallory était passionnant et que vous ne regrettez pas d'être venu, j'imagine. Vous allez revenir très bientôt pour nous parler de votre revue Atlantis ou de votre travail.
Volontiers.
Et on fera sur...
La revue Atlantis, la collection des guides de la tradition que je dirige chez Dergy et mes propres ouvrages.
Merci beaucoup. Alors,
Merci à vous.
On ne sort pas de la tradition, je me tourne maintenant vers un jeune homme dont le nom m'échappe complètement, c'est pour ça que je lui ai demandé de se présenter.
Pierre de Cromot du Cirque Saint-Louis.
Voilà, Pierre de Cromot du Cirque Saint-Louis, qui vient nous parler de quelque chose que j'ai déjà présenté il y a 15 jours lors du dîner annuel de Radio Courtoisie, le 7 novembre, et qui s'appelle l'agenda de la tradition 91. Alors, qui est paru aux éditions Saint-Rita.
Alors c'est un très bel agenda qui a été...
c'est aussi mon avis.
Fait sous l'impulsion du Cercle Saint-Louis, donc qui est le mouvement des jeunes catholiques de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Et on peut d'ailleurs remercier les éditions Saint-Rita, notamment Roland Elie, pour avoir contribué pour la première fois à la réalisation d'un agenda de la tradition. Alors cet agenda de la tradition est un peu la suite de l'agenda contre-révolutionnaire qui est sorti l'année dernière, en 89. Et on a pensé qu'il était vraiment important pour tous les gens, surtout les catholiques de Saint-Nicolas-du-Chardonnay et de la fraternité Saint-Pédis.
Les catholiques en général, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'aller à Saint-Nicolas pour
exactement.
Pour lire.
Exactement. Si vous voulez l'acheter, il y a un point de vente, c'est Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Alors, cet agenda de la tradition, donc, ça rassemble tous les grands ténors de la tradition. Donc, il est préfacé par Monseigneur Tissier de Malraye. Et dedans, vous pouvez trouver notamment en annexe toutes les associations qui tournent autour de la tradition catholique. C'est un agenda donc qui est relié. La couverture est en couleur. Elle représente l'arrivée du pèlerinage
de Chartres
à Montmartre, qui est une très belle photo, qui est parue notamment dans de nombreuses revues amies. Et si vous voulez, c'est un peu cette continuation, c'est-à-dire de donner aux gens non pas simplement la possibilité d'avoir un agenda professionnel, puisque c'est un agenda professionnel, mais aussi une arme de combat, parce que dedans, vous pouvez trouver...
Il faut dire, pardon de vous couper, mais il faut dire que c'est un agenda utilitaire, c'est-à-dire qu'il y a une colonne par jour avec les heures, donc on peut noter ses rendez-vous, on peut noter plein de choses. C'est pas simplement un agenda comme on en utilisait dans nos campagnes il y a un siècle, où on expliquait que après la pluie, le beau temps, et Noël au tison, Pâques au balcon, et tout ça en novembre, Noël en décembre, en fait, il n'y a pas que ça.
Combat
pour la foi.
Tout à fait. Dedans, bon, on peut voir aussi Radio Courtoisie, avec le livre journal de Serge de Beketch.
Incroyable coïncidence.
Dans les dernières pages. Il y a donc un entretien avec l'abbé Aulagnier, le répertoire de tous les prieurés de France, donc là où les gens peuvent aller à la messe. C'est un répertoire, donc il y a les lieux de culte, aussi les associations amies comme le comité Sainte-Geneviève, le MJCF, Renaissance catholique et toutes sortes d'associations. Alors la particularité, c'est que dans la semaine, on a sélectionné le saint le plus important, enfin qui nous paraissait le plus important à nos yeux, et on
vous débrouillerez avec les autres.
Oui,
tout à fait. Je prends une semaine au hasard. Vous avez la semaine du 11 au 17 mars, vous avez Saint-Firmin, Saint-Grégoire-le-Grand, Sainte-Euphrasie, Sainte-Mathilde, Sainte-Louise-de-Marillac. Vous avez choisi Grégoire-le-Grand, vous auriez quand même pu avoir l'élégance de choisir Sainte-Louise-de-Marillac, qui est la sainte patronne de Minute, depuis qu'on est installé sur une place qui porte son nom, devant un square qui porte son nom, dans une maison qui est mitoyenne de celle où elle a vécu. Alors, bon, ça va, je ne vous ferai pas d'histoire pour
mais
ça,
mais l'année prochaine... Vous êtes allé voir à la Saint-Serge ? Non ?
Je n'ai pas regardé la Saint-Serge, c'est vrai, je vais regarder ça. C'est bon pour moi, la Saint-Serge ?
Il faut demander à Roland Elie, je pense que...
Il ne veut pas dire... Roland Elie se moque complètement de ces considérations-là. Il ne s'appelle pas Serge, d'ailleurs, il s'appelle Roland. Alors, la Saint-Serge, c'est Notre-Dame-du-Rosaire, c'est très bien. C'est le 7 octobre, la Saint-Serge. et je ne figure même pas dans cet agenda. Bon, enfin, je m'efface devant Notre-Dame du Rosaire. Après
alors
tout,
donc, cet agenda, on peut se le procurer soit à la sortie de le dimanche à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, il est en vente sur le parvis, soit en le commandant aux éditions Saint-Rita, 26 rue des Saurins, 93 100 Montreuil. Donc il coûte 150 francs, il faut compter 15 francs pour le port. Alors c'est un très bel agenda, un très beau cadeau de Noël, et surtout, voilà, comme on l'a dit, une arme de combat, et d'un combat contre-révolutionnaire.
Merci. Alors l'agenda de la tradition, aux éditions Saint-Rita, on rappelle une fois l'adresse, c'est
26 rue des Saurins, 93 100 Montreuil, donc 150 francs plus 15 francs de port.
Merci beaucoup. À propos de la Saint-Serge, il y a une auditrice, je crois, qui a téléphoné pour demander quel était mon signe astérologique. Alors je suis, je le précise, Sagittaire avant de s'en servir, bien entendu, ce qui fait que vous avez compris que mon anniversaire va pas tarder. Je peux même vous dire que c'est le 12 décembre, carrément, il n'y a pas de raison de ne pas donner les dates. Ne vous gênez pas, on accepte l'échec, et même d'ailleurs l'argent liquide.
Hein,
ben quoi, enfin, comment je vais donner les 100 francs, moi, pour la professeure Lydia? Tiens, au fait, alors, écoutez, je vous aime beaucoup, vous savez, mais c'est vrai quand je le dis, parce que le pari a été parfaitement réalisé, et je vais vous dire une chose, on a dépassé la somme demandée. En promesse, on avait promis, j'avais pris l'engagement que 15 000 francs seraient récoltés ce soir pour... les enfants orphelins de la plaine de la Beka, de l'association, de la maison Notre-Dame des dons pour l'enfant heureux, 17 avenue Émile Deschanel, 75 007 Paris, eh bien, on a réussi au-delà de ce qu'on avait espéré. Je vais vous donner le chiffre. À 20h30, on avait 25 000 francs de promesses de dons. Inutile de vous dire que c'est pas une raison pour dire, ah bah, puisqu'il y a plus, j'enverrai pas mes 100 francs. Je sais que vous ne le ferez pas. Mais non, je veux dire par là que les 10 000 francs supplémentaires vont trouver très très facilement à s'employer. Hein. Je pense que vous n'en doutez pas. Et je suis certain qu'on peut faire confiance à Sœur Lydia pour faire le meilleur usage de cet argent. Je crois qu'elle va pas aller dîner ce soir à la Tour d'Argent. Je crois pas que ce soit le genre de la maison. Et je crois que vraiment, vous avez fait une grande belle chose. Je vous remercie parce que je vais pouvoir rouler les mécaniques. Je viens de gagner peut-être 2 ans de moins au purgatoire, là, ou 2 500 000 ans. On ne sait pas d'abord combien j'ai au départ. Donc merci, grâce à vous, les enfants auront moins froid. Et moi, j'ai un petit peu plus chaud au cœur. Quoique je n'ai pas froid de ce côté-là souvent. Bonsoir, monsieur de Saint-Sauveur. On va terminer avec vous. On vous connaît, on vous a reçu à cette émission déjà. Et parce que vous avez eu une initiative intelligente, vous faites des écoles qui forment des cadres, qui forment de l'élite en quelque sorte. Et comme on a besoin d'élite, je vous ai invité à venir nous parler encore une fois de vos écoles, malheureusement brièvement, puisque...
Eh bien, on va faire bref. Merci de m'avoir invité. Effectivement, notre manière à nous, enfin mon épouse et moi-même, de défendre l'enseignement libre, c'était de créer des écoles privées, puisque je crois qu'on prouve le mouvement en marchant et... En 1978, nous avons créé des écoles sur Cannes et sur Nice, et nous avons repris une école il y a maintenant 2 ans, une école qui est située dans le Poitou et qui est notre dernier bébé, le bébé le plus cher, puisque c'est un internat pour garçons qui va de la 6e au terminal, et dans lesquels on essaye de faire passer l'esprit d'André Charlier, qui était ce grand éducateur, qui était directeur de l'école des Roches pendant plusieurs années, et qui a profondément marqué cette école. Et nous essayons de faire passer l'esprit de l'éducation catholique traditionnelle, mais qui voudrait éviter 2 écueils. Le premier écueil, c'est l'écueil de la boîte à bac ou l'écueil de la caserne. Une école, c'est ni une boîte à bac ni une caserne. C'est pas non plus l'abbaye de Thélem. C'est une école dans laquelle il doit y avoir un climat de confiance, un climat de solidarité et d'amitié entre les élèves, et où les grands, ce que nous appelons les capitaines, dans l'esprit d'André Charlier, ont un rôle pédagogique et éducatif vis-à-vis des plus petits. Puisque finalement, le chef, c'est pas celui qui tient les plus beaux discours, c'est celui d'abord qui donne le bon exemple et qui part le premier devant. Et c'est cet esprit qu'on essaie de leur faire passer. La devise de l'école, c'est « Duc in altum », donc aller toujours plus haut. Et dans ce domaine-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de limite et qu'on peut toujours se perfectionner.
Comment ça fonctionne pratiquement? D'abord, est-ce que les enfants ont une tenue spéciale? Est-ce qu'il y a un uniforme?
Alors, en ce moment, ils sont en train de réclamer un uniforme. Il n'y a pas d'uniforme dans l'école jusqu'à présent, et c'est la base, en quelque sorte, qui manifeste, mais non pas pour casser les vitrines, mais pour réclamer un uniforme, pour réclamer une identité qui leur permettra de se sentir véritablement tous ensemble dans une école qui est la leur.
C'est une école laïque, mais il y a une formation religieuse.
C'est une école. Non, c'est une école catholique. C'est une école catholique. Nous avons d'ailleurs un aumônier sur place. Nous avons la messe traditionnelle. Ça, on y tient plus que tout. Nous avons une formation religieuse, on y tient plus que tout. Nous avons une formation à la philosophie réaliste, c'est-à-dire la philosophie d'Aristote et de Saint Thomas, on y tient plus que tout.
C'est pas mauvais, ça fait ses preuves.
C'est pas mauvais, c'est fondamentalement même bon, je crois. Et puis une formation historique aussi qui nous paraît capitale pour que les jeunes qui nous sont confiés arrivent à se positionner dans un monde qui est en pleine évolution, en plein changement.
Ah bah tenez, alors je vous donnerai tout à l'heure un livre qu'il faut leur faire lire, c'est le livre de François Brignot, 1939-1940, Année terrible.
Oui, tout à fait.
Ça, pour la formation historique solide, voilà, c'est une annonce. Si
c'est tout à fait indispensable, et je crois que quelqu'un qui tient le créneau de la philosophie et de l'histoire aujourd'hui, sans exclure bien sûr la théologie, peut jouer un grand rôle. Et c'est du moins notre but, c'est d'aider les garçons qui nous sont confiés à jouer ce rôle demain.
Alors, monsieur de Saint-Sauveur, il nous reste malheureusement une minute. Je suis désolé de vous presser comme ça.
Mais je vous en prie.
Première question, les prix, parce que je crois que ça intéresse.
Oui, alors nous sommes hors contrat. En moyenne, pour un internat complet, ça coûte 40 000 francs.
40 000 francs,
oui,
pour l'année.
Pour l'année.
L'internat complet, c'est-à-dire toute la
scolarité, l'internat, l'hébergement, etc.
Deuxième question, l'adresse à laquelle on peut obtenir des renseignements plus précis.
Oui, alors l'adresse c'est ILESCA, c'est le nom de l'école, Institut Libre d'Études Secondaires de la Catodière, ILESCA, Château de la Catodière, 86 530 à Availle en Châtellerault, et le téléphone c'est le 49 93 68 11.
Merci. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous téléphonez demain à Françoise Varlet, qui sera un plaisir de vous redonner cette adresse au téléphone 2 minutes 40 05 10 91. Merci à tous de votre attention. Je rappelle que l'éditeur fou des éditions du Cadran, c'est-à-dire le plus beau travail d'édition qu'on puisse imaginer en France, sera présent aux journées organisées par Jacques Darès à Vincennes, et que rien que pour cette raison, rien que pour voir ce qu'on peut faire de plus beau en matière d'édition, il faut aller là-bas. Voilà. Merci à tous.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch du 21 novembre 1990, diffusé dimanche 22 mars 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.